Shalom.
Salam.
Salut.
Pas mal, hein?
On est là. Mal,
t'as vu ça? T'aimes bien? On sait que tu es un influenceur, mais nous, on se défend ici. Dans notre petit
mais franchement,
carré.
Ouais.
Le Fresh Prince.
Aïe! Le prince.
Aussi, bienvenue à Babi.
Ah, voilà.
C'était vraiment, vraiment, vraiment important pour nous. On ne pouvait pas parler d'un programme. S'installer en Côte d'Ivoire et pas parler de la culture ivoirienne. C'est, j'ai envie de dire, il y a des, c'est un peu pareil à Kinshasa. Tu sais, parfois il y a des villes où tu vas et puis tu passes un week-end, puis tu te fais une idée. Mm-hmm. Et je pense que il y a des villes et des pays où il faut expérimenter. C'est ouais, pas ouais. y être, il faut d'accord. expérimenter. Okay. Et c'est ça qu'on veut réussir à expliquer aujourd'hui.
Ah, ça, c'est...
Tu vois, au-delà du oui, le Babi est le plus doux au monde, etc. Ouais. Parce que je pense que c'est important aussi que les gens te découvrent, Prince, parce que ils connaissent, voilà, tu nous montres ta vie. Voilà.
Mais je vais te présenter. Comment lui se présente d'abord?
Non, 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 mais aujourd'hui, non, je veux juste prévenir, je fais mon teasing.
Qu'est-ce que ouais,
le teasing? Le teasing,
qu'est-ce qu'il y a?
Normalement, là, t'as la couille après, frère. On avait des règles, mais il y a fouille.
C'est bon. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, vas-y.
Vas-y, c'est ça, on se connaît.
Présente-toi.
Vas-y.
D'accord. Comment je vais me présenter? Ça, c'est compliqué.
Justement, c'est intéressant.
Je m'adapte au public. Donc, je vais me présenter en fonction. Du regard des gens.
Mmh. Donc, ouais, des gens qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire. Voici le public.
Voici le public. Dans les grandes occasions, je dis simplement que je suis le griot 2.0 de l'Afrique.
Amen.
Mmh. Amen. C'est-à-dire, je raconte l'Afrique et la Côte d'Ivoire différemment, avec un nouveau branding et un nouveau storytelling pour permettre aux gens de découvrir, de redécouvrir cette Afrique-là qui n'est pas dans les médias ou qui n'est pas dans nos livres. Mmh. Voilà. C'est simplement ça. Vivre l'Afrique autrement et avec toute son authenticité, sa joie de vivre, ses vannes et ses réalités, hein, le beau, le mauvais, on va dire ainsi. L'Afrique sans filtre.
C'est ça ton moteur.
C'est ça mon moteur.
Donc quand tu as su qu'il y avait la CAN en Côte d'Ivoire.
Ouf, je pense que c'est. Peut-être c'est au-delà de mes espérances. Je pense, franchement, cette CAN ou cette période-là, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que j'allais être busy. Il y a beaucoup de clients. Beaucoup d'argent, mais je ne m'attendais pas
à peut-être autant d'argent.
Non, pas beaucoup d'argent. La charge physique, émotionnelle et l'implication, en fait.
Quand tu dis beaucoup de clients, est-ce que tu peux expliquer du coup c'est quoi ton activité?
C'est quoi tes
donc,
clients?
Au-delà, à côté, bon, en plus d'être influenceur tourisme, j'ai une agence de tourisme.
Ah!
Qui, voilà. Je n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'ai un certain positionnement. Moi, je me dis... Franchement, les clients, c'est compliqué. Gérer les humains, moi, personnellement, je trouve que c'est compliqué.
Bien sûr.
Et donc, je travaille directement avec...
À qui le dis-tu? Preach.
Non, je travaille directement avec des conciergeries de luxe.
OK.
Qui te positionnent des clients dans certains standards.
D'accord.
Qui sont déjà prêts, quoi.
Qui sont déjà prêts. Prêts à vivre une certaine expérience, prêts à payer pour l'expérience. Donc, on n'est pas dans les... Il faut diminuer un peu à... Compliqué le truc. Franchement, c'est compliqué.
C'est pas le tourisme de budget.
Non. C'est les debout, voilà, les vrais debout.
C'est le tourisme donc, des debout.
Des debout, voilà. Donc, du coup, je communique pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai une clientèle qui arrive. Et après, de bouche à oreille, sur les réseaux, il y a des gens qui te contactent, qui disent, ah, on veut vivre en Côte d'Ivoire, mais on veut vivre la Côte d'Ivoire selon Prince Edja.
Amen.
Voilà. Donc, durant cette CAN, il y a énormément de touristes, de personnes qui ont envie de découvrir la première fois la Côte d'Ivoire. Ou qui sont déjà venus, mais qui n'ont pas eu une expérience satisfaisante. Qui veulent voir...
Tu en as eu ça déjà?
Ah oui, j'en ai énormément. Ça, je pense que c'est le plus gros lot d'ailleurs. Qui viennent, qui disent, bon, on est venu, on a vu son manque à Abidjan, on est sorti la nuit, on a mangé à Tchéké, et puis bon, c'est tout. Ou bien à la limite, ils sont allés à Sini et n'ont rien découvert de la Côte d'Ivoire.
Ah, ça, c'est le, tu penses que c'est l'expérience de base de beaucoup de gens.
Il y a l'expérience classique. Quand tu prends une semaine à Abidjan, ce que les gens font, les touristes, quand ils viennent, ils restent à Abidjan. Ils vont manger un peu à checker poisson quelque part.
Ils trouvent un maquis.
Un maquis, un gamba. La plupart du temps, ils vont chez Ambroise, mais ils n'ont pas fait de publicité.
Oh, c'est ça leur maquis seulement.
Ouais, chez Ambroise, c'est la trappe.
C'est le maquis où tu emmènes les chocos.
Ouais, voilà.
Tous les touristes, c'est.
Maquis Duval.
Maquis Duval, bonjour. Voilà. Foutou à 10 000.
Foutou à 10 000.
Foutou à 10 000, voilà. Mon cher. C'est pas évident, mais bon. Tu vois, et donc, ils ont vraiment un schéma classique. Ils vont aller à Bassam pour voir un peu d'un petit hôtel, voir la mer. Après, ils vont à la Sini. Fêter. Revenir à Abidjan, aller voir la basilique, le classique.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, après 4 jours, 5 jours, ils vont rester là, des gens vont les inviter à manger un peu à la maison, sortir encore dans des restaurants, des hôtels, et c'est tout. Ils ont vécu la Côte d'Ivoire. Alors qu'en réalité, c'est pas ça la Côte d'Ivoire.
Très bien.
Tu vois, ça va bien au-delà de ça. Et parce que tu retiens rien de la culture ivoirienne quand tu fais ça. Tu visites les spots très instagrammables, trop commerciaux, trop populaires sur les réseaux. Alors que vivre la Côte d'Ivoire, c'est aller au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment aller à la rencontre des personnes.
D'accord.
C'est aller à la rencontre de la culture ivoirienne dans des villes qu'on ne soupçonne pas d'être, d'avoir un gros potentiel touristique.
D'accord.
Ouais, c'est, pour moi, c'est vraiment ça. Moi, comme j'ai pas mal voyagé ou habité dans différents pays, chaque fois, les gens ils disent « Mais alors, tu préfères quel endroit ?» Et je dis toujours que moi, la seule chose qui compte, c'est les gens, en fait. C'est-à-dire que, ok, tu vas me dire telle ville, l'architecture. Bon, après, chacun a sa sensibilité, mais ça peut être beau, ça peut être, etc. C'est vraiment les gens. Qu'est-ce que te procurent les gens? Et je voudrais vraiment qu'on parle de ça, parce qu'il ne faut pas que les gens passent à côté de ça. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, tu dois en fait trouver un moyen d'être en interaction avec les gens.
Obligatoire.
Et je comprends aussi la difficulté. Quelqu'un qui se dit, bon, j'ai entendu que Abidjan, c'est cool, j'y vais. Et comme tu dis, c'est là où tu retrouves les déçus qui vont, ah, je vais à tel hôtel, on m'a dit d'aller là, mais ils rencontrent personne finalement. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire, du coup, de l'Ivoirien? Comment tu décris l'Ivoirien?
Je pense que l'Ivoirien est spécial. L'Ivoirien est spécial. C'est celui, je pense que, c'est le peuple le plus authentique, je dirais, d'Afrique, à côté avec les Camerounais.
Tu vois, mais ils parlent beaucoup.
Non, non, mais on a beaucoup de similarités. Quand je dis authentique, c'est-à-dire, si on n'aime pas, on n'aime pas. Si on aime, on aime. Donc, ça se lit sur notre visage, dans notre manière de faire, d'aborder en fait, les gens, dans les premiers échanges. À la différence qu'on est peut-être un peu moins chaud.
Bruyant
ou chaud. Bruyant. Voilà. Mais,
que les Camerounais.
Voilà. Et on est, je dirais, on aime naturellement, on apprécie naturellement. Donc, quand tu comprends les codes de l'Ivoirien, donc quels sont les codes de l'Ivoirien? C'est les codes sociaux, les codes, je dirais, humoristiques, parce que ça, c'est le point le plus important. Le langage ivoirien, c'est très... Il y a beaucoup d'humour.
Deuxième, troisième degré.
Franchement, faudrait que... Non, on le prend au troisième degré. Mais les gens qui viennent en Côte d'Ivoire ne comprennent pas notre humour. Et ça, c'est un gros blocage. Moi, je l'ai rencontré énormément avec tous les touristes. C'est la partie qui, soit ils n'acceptent pas, ils n'arrivent pas à adapter, et c'est le blocage qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer en Côte d'Ivoire. L'humour ivoirien, ils ne te diront pas que c'est l'humour, mais ils te diront, vous les Ivoiriens, vous parlez mal. Bien, vous êtes sauvages, vous êtes difficiles. Vous moquez de tout.
Alors que l'Ivoirien se moque de tout, mais de lui-même aussi.
Bah, de lui-même. Mmh. Et en réalité, le taux de dérision en Côte d'Ivoire, c'est devenu seconde nature. Pour nous, c'est une thérapie pour pouvoir vraiment oublier tous nos problèmes, tous nos soucis. Et donc, on a pris l'habitude de rire de tout et de rien. Et l'Ivoirien, j'ai une amie gabonaise, elle dit, mais ton ami m'a dit, mais tu es bête. Mais chez nous, tu es bête. C'est pas une grosse insulte. Quand on dit à quelqu'un, ah, mais toi, tu es trop bête, ça peut dire, ah, tu es trop drôle.
Tu es trop drôle.
Mais pour quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, on dit, mais tu es bête, mais attends, mais le mec, il m'a insulté mon intelligence.
Ah, ça arrive là-bas.
Tu vois?
Non, mais ça peut être normal. Moi, je pense, ce que tu dis, c'est normal. Si la personne débarque, bam, tu dis, mais tu es bête. Tu dis, mais quoi? Mais après, ce que j'entends, c'est, il faut faire l'effort. Parce qu'à contrario, tu vois quand même beaucoup de gens qui sont venus, même qui sont venus quelques jours, et puis ils ont compris ça.
Ouais.
Et quand tu comprends ça, après, ça ne peut même plus partir, quoi.
Ouais.
Tu vois, ils se sentent bien.
Quand tu comprends ça et tu l'intègres, tu commences même à l'appliquer toi-même dans les relations humaines, ça passe facilement. Donc, le code, je dirais, humoristique ou bien du langage ivoirien, que ce soit le nouchi ou le français ivoirien. Ensuite, tu as le code, je dirais, gastronomique. C'est que la gastronomie ivoirienne est assez particulière. Certes, elle a apprécié. On a des plats très connus à Loko Atieke, le plus populaire. Mais au-delà de ça, il y a des plats vraiment très locaux et propres à chaque ethnie de la Côte d'Ivoire que les gens essaient plus ou moins de découvrir. On dit souvent, les Ivoiriens, c'est très épicé, c'est très pimenté.
Ça va.
Ouais, il y a pire.
Les Nigériens, c'est horrible. Hein.
Là, c'est horrible.
Non, nous, ça passe.
Genre, les Nigériens, ils adorent la nourriture ivoirienne.
Ils trouvent que c'est épicé, mais c'est épicé. Tranquille. Tu vois, pour eux, c'est juste un peu... Juste un peu truc. Ok, intéressant. Voilà.
Donc, tu vois, il y a ça qu'il faut adapter. Et après, il y a la culture, le code social. Comment est-ce que l'Ivoirien vit en société avec les étrangers, avec des... même les Ivoiriens de la diaspora.
Oui.
Parce qu'on arrive à nous, à l'intérieur, on sait qui vient, qui est Bengis, qui est local, et qui n'est même pas même africain.
Et puis qui est Choco.
Qui est Choco.
Tu vois, il y a différents niveaux de dimension.
Voilà. Donc, on arrive à s'adapter à... Voilà. Il y a quelques années, l'Ivoirien avait un complexe avec les Bengis.
Ah.
Je pense que quand on dit qu'il y a un Bengis dans le quartier, tu vois, tout le monde est... Oh, y a le gars, il va tuer.
Ah.
Donc, aujourd'hui, ça a changé. Le fait qu'il y ait une grosse classe moyenne fait qu'on est vraiment à la page des réalités qui se passent
là-bas,
à l'Occident, en Occident. Et donc, on n'a plus ce complexe-là.
C'est très... Tu sais, il y a... Déjà, un truc que peu de gens savent, moi, j'ai fait mon adolescence en Côte d'Ivoire.
Okay.
Donc, j'ai... Et ce que tu dis, c'est vrai, le changement par rapport à la vision du benguiste. Là, aujourd'hui, le local, il se dit plutôt, OK, pendant l'année, je vais créer mon business. Comme ça, quand le benguiste vient,
il va payer.
C'est là que je fais mon argent. Exactement. Moi, je fais la fête toute l'année, mais quand il arrive,
c'est chez moi, il va
bouffer. Je le laisse faire la fête, mais c'est chez moi qu'il va bouffer.
Il y a eu un changement de paradigme.
Ouais, ouais, ouais.
Complètement.
Ça a évolué. Tu saurais dire comment? Parce que c'est intéressant, parce que c'est un truc, je pense que dans les questions qu'on a eues, parce qu'avant de faire cet événement, on a un peu écouté les gens. Il y avait quelque chose qui est revenu souvent, qui moi m'a un peu surpris, c'est les gens appellent ça le mépris des locaux.
Ok.
Ils ont l'impression que les gens locaux les méprisent un peu. Alors, je sais pas comment, parce que très honnêtement, je n'ai
forcément. Ah, mais avant, peut-être par défaut.
Ah, mais je sais pas, tu en as déjà entendu parler, est-ce que tu saurais dire?
Oui. Je pense que les locaux ont démystifié les benguistes,
voilà,
ou les gens qui viennent de l'extérieur. Parce que grâce aux réseaux sociaux, on sait. Avant, les gens, ils travaillaient, ils faisaient des petits gombos à Paris.
Wow.
Et autres, ils venaient, ils mettaient, voilà quoi. Ils
mettaient l'attention.
Ils mettaient l'attention sur nous. Ouais. Tu vois, ils mettaient en danger les petits gos et tout. Tout le monde était.
Voilà.
Avec les derniers Zara et tout.
Voilà.
Alors qu'aujourd'hui, ta petite boutique te vend un petit Zara même dans la dernière collection.
Tu peux te gérer.
Tu peux te gérer. On te fait même livraison depuis Paris. Tu vois, ouais. Donc, on est aussi à la page comme eux. Donc, le mythe du Bengis qui arrive avec ses euros pour dépenser en boîte de nuit et tout. On fait pire ici.
Ah,
mais...
Donc, on n'a plus peur au fait des gens qui viennent au puits. Bon, on est sur le même pied d'égalité.
Voilà. C'est intéressant, c'est allé parce que tu as parlé de la classe moyenne et tu as parlé aussi des réseaux sociaux. Moi, je suis personnellement persuadé que sur le rayonnement de la Côte d'Ivoire, des gens comme toi, en fait, ont eu et continuent d'avoir un impact que j'adorais étudier, enfin analyser. C'est-à-dire qu'on n'a pas de data. On n'a pas de data, mais moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont décidé de s'installer juste en voyant ça. Et donc c'est organique. C'est ça que je veux dire. Je dis pas que le gouvernement fait rien, etc. Mais quand tu vois en fait ce que font, je sais pas, les offices de tourisme du Kenya ou du Maroc, etc. Si tu as ce niveau ici, ce que tu vois justement avec la CAN, mais ça explose.
Bien sûr.
Les réseaux sociaux ont une... Vraiment, ça, c'est une part très importante. Hein. Parce que les gens, ils se disent, mais... Enfin, ils voient, ils se disent, ouais, le matin, ils voient le gars sur une terrasse, ils voient le gars à la plage, ils se disent, mais...
C'est où ça?
Finalement.
Ouais, des fois, j'entends souvent des gens nous dire, mais c'est où ça? Je fais, mais c'est ici, les gens, je sais pas, vous pensiez que c'était où? Genre, je sais pas. Et...
Il boulait, mais c'est quoi il boulait?
Exactement. Tu sais, il y a pas longtemps que j'ai dit aux gens qu'il y a des baleines ici. Les gens étaient choqués. Des fois, il y a des baleines en Côte d'Ivoire. Si, il y a des baleines qui se baladent vers l'île Boulay. Des fois, là, tu peux aller, tu vois des baleines. Les gens disent, mais c'est pas possible. Je dis, bah, si, à l'océan Atlantique, je sais pas pourquoi vous pensez que. D'ailleurs, ça me fait rire, vous appelez ça la mer, ça me fait toujours marrer, mais c'est l'océan. On peut le dire aux gens, tu vois. C'est quand même pas. C'est pas rien, en fait.
Non,
on
mais
a pas...
c'est là où la force des réseaux sociaux. Parce que t'as pas la. C'est pas le budget que met le Rwanda pour visiter
non,
Rwanda,
oui.
Tu vois.
Non, c'est pas visiter Rwanda qu'on voit partout là. Pour leur pays éclater au sol, là.
Tu vois. Et c'est les gars.
Ah, il y a des Rwandais. Excusez-moi.
Il y a une balle perdue.
Non, il y a une balle perdue pour le Rwanda parce que je te disais effectivement le Rwanda par exemple, je trouve
que
mise
énormément.
Oui, il mise énormément dessus. C'est bien, chacun son game. Mais le Rwanda pour moi c'est la Suisse en Europe, c'est-à-dire que c'est très aseptisé, mais ça va pas dépayser. Enfin,
non,
je
mais après
que
moi
je suis d'accord.
Je sais pas, mais moi je parle vraiment juste du budget. Pour moi, tout le monde devrait mettre ce niveau de
budget. Tout le monde budget, devrait mettre ce niveau de budget.
Ouais, c'est ça mon point. Et mais même sans ça, avec des gens qui ont un amour profond de leur pays, comme Alain, comme tout ça, je pense que c'est un impact qu'on n'arrive pas à estimer, mais c'est un très, très gros impact. Toi, tu le ressens comme ça?
Moi, je le ressens. Moi, j'arrive, j'arrive à le calculer, à le chiffrer en fonction des saisons. Et c'est incroyable. Prenons cette canne, prenons cette période. Ma cible, moi, ma cible, elle vient à 80% de l'Europe.
D'accord.
Pendant cette canne, elle a shifté. J'ai eu, on dira, 60% de clients qui viennent des pays anglophones de la côte, en Afrique.
D'Afrique.
Ah. Wow.
Et le retour que j'ai eu, mais c'est incroyable. C'est, tu vois, on est en Côte d'Ivoire, mais que ce soit le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, lorsqu'ils pensent vacances, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ou ce n'est pas un pays francophone, frontalier, auquel ils pensent. Donc la canne a permis déjà de les attirer.
Ouais.
Mais en leur, montrant, en leur donnant une offre touristique, un circuit, à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Sassandra et d'autres villes, mais les gens se disent, c'est incroyable.
Exact.
On avait un pays comme ça juste à côté.
Qui ne nous emmerde pas pour des visas.
Ils ne nous emmerdent pas pour les visas.
Qui les laisse venir.
Qui... Ils retrouvent facilement la même gastronomie. Donc, tu as plein de restaurants nigériens à Abidjan.
Oui.
On mange presque pareil.
Le gars, c'est Abidjan, c'est combien de temps?
C'est une heure et demie.
C'est une heure et demie.
Parce que moi, quand j'ai
et il y a un vol tous les jours.
Oui.
J'ai fait Adicom Day spécial nigérien. Quand ils sont venus, ils ont dit, punaise, si nos amis, là, ils voient ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient même pas trop faire la promo parce qu'ils disent sinon...
Ils vont tous débarquer.
Parce qu'ils disent c'est ce qu'ils ont fait avec Accra quand ils ont commencé à aimer Accra.
Exactement.
Et tous les gars qui ont les moyens sont venus.
Mais c'est incroyable. Et donc, du coup,
super.
Ils ont changé complètement leur perception de la Côte d'Ivoire. Et moi, je reçois énormément de messages. Attends, is this Africa's? This is Côte d'Ivoire? OK. Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Comment on fait? Ils n'ont aucune notion, aucune information sur la Côte d'Ivoire.
Ouais. C'est très vrai.
Et donc, c'est grâce aux réseaux sociaux.
Le travail est impressionnant. Et je pense que c'est vrai que tu as raison. Le truc impressionnant, c'est que moi, je pense aussi que même dans s'installer en Côte d'Ivoire, parce que je ne sais pas si à quel point on l'a dit clairement, mais là, on va faire un programme pour des gens à s'installer en Côte d'Ivoire, qu'ils soient entrepreneurs, salariés, en couple, célibataires, en famille. Tout le monde. Il y en a pour tout le monde.
En troupe.
Exactement, troupe, si tu veux même. Tous les trucs, on prend. Mais surtout, on voulait essayer de leur montrer que il y a beaucoup de choses qui, de l'extérieur, peuvent paraître très complexes, qui prennent du temps, si tu ne t'y connais pas, et qui, nous a pris des années, peut-être des mois, parce que nous, on n'était pas d'ici. Quand on est arrivé, on a dû tester, échouer, perdre du temps, de l'argent, et leur faire économiser tout ça dans un seul programme auquel ils ont accès. Et ce qui, moi, m'a intéressé, c'est que quand on a commencé à en parler, il y a beaucoup de gens que moi-même, je n'imaginais pas, donc des Africains, qui, des fois, vivaient déjà en Afrique, même pas en Occident, qui m'ont dit « Ah, ça m'intéresserait depuis que je réfléchis à la Côte d'Ivoire. Alors que, j'avoue, spontanément, quand nous, on l'a fait, on se disait « Bon, c'est tous ceux qui sont en train de souffrir sous le règne de Marine Le Pen, là-bas et compagnie, qui allaient vouloir venir. » Mais en fait, il n'y a pas que.
Il n'y a pas que, non.
Et je ne veux même pas oublier nos frères des Antilles. Tu vois, c'est, on pense à vous. On vous attend. Quand on allait en Guadeloupe,
ouais, on est parti en Guadeloupe. C'était fou le nombre de personnes qui avaient… Enfin, tout le monde connaissait quelqu'un.
Qui était à Abidjan.
Abidjan, quoi.
Ouais, donc.
Moi, par exemple, la Guadeloupe, la Guyane, et vraiment tout.
Mais ils se plaignaient parce qu'ils disaient que c'était que des femmes. Ils disaient, qu'est-ce que vous faites à nos femmes?
Qui a dit ça?
Là-bas, ils disaient, mais c'est que des femmes.
Ah, c'est que les femmes qui venaient ici. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup d'Antillaises, plus que d'Antillais.
Il y a énormément.
Effectivement.
Énormément. Moi, je me rappelle, tu vois, là, bientôt, il y a le Popo Carnaval. L'année passée, il y a eu le Popo Carnaval.
Le Popo Carnaval, oui, celui qui est en noir. Les gens sont
en noir,
là.
Le réel que j'avais fait, qui a fait peut-être 5 millions de vues. Je pense que. Le nombre de messages que j'ai eu des Guyanais, parce qu'ils pensaient que c'était en Guyane, c'était le carnaval, parce que ça ressemblait au Negmaro. Pareil. Donc, j'ai eu énormément de retours. Et là, par exemple, pour le prochain Popo Carnaval, on fait un circuit dédié uniquement aux gens de la Guyane, de la Martinique.
Voilà.
Non, tu vois, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, la culture et les ressources ont permis de créer un pont entre les cultures.
Exact.
Et peu importe le lieu de résidence. Parce qu'ils ont accès à ce contenu-là et à ces informations sur la Côte d'Ivoire. Ça les attire.
Moi, ce que je veux appuyer sur ce que tu fais. Enfin, je dis vous faites parce que je sais que tu... Avec Alain,
oui,
tout
Alain,
ça, vous êtes ensemble. C'est que vous avez fait ça sans attendre quoi que ce soit. Tu vois, c'est un peu comme les gars de la Sunday. C'est-à-dire, vous avez fait votre truc.
Ouais. Oui.
Maintenant, les gens de Cocane, etc., vous demandez, bon, les gars, on a besoin de vous. Mais de base, vous avez fait les choses pour la Côte d'Ivoire, en fait. Et donc ça, c'est un message très important pour ceux aussi qui veulent venir. c'est que vous dites toujours que voilà, c'est pour contribuer, etc. Mais n'attendez pas forcément que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Mmh. Voilà. Ouais. C'est pas au pays à faire quelque chose pour toi. Tu fais quelque chose
pour le
pays.
Tu fais et puis les gens vont suivre.
Ouais.
Mais c'est intéressant parce que du coup, quand tu décris ça, je me demande, est-ce que... parce qu'il y a des gens de l'extérieur, qui, je vois plus de gens de l'extérieur se dire « Ah, mais les étrangers vont venir prendre la Côte d'Ivoire. » Parce que tu sais, il y a un peu ce...
Quand tu dis les gens de l'extérieur, tu parles de qui ?
C'est-à-dire que par exemple, c'est plus d'autres Africains qui me disent « Ah, mais vous, dans tous les cas, votre pays, là, ça appartient aux étrangers. » Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, bah, celle-là. Ça, c'est leur excuse numéro
ça,
une.
Ça, c'est tout le temps.
Ça ne vous appartient pas. Quand ça leur pique, ouais, mais là, les que chez nous, le courant... voilà. Mais comme chez nous, le courant ne coupe pas tout le temps. Comme notre monnaie est stable. Tu vois, il y a plein de trucs qui les piquent un peu.
C'est juste avant que tu viennes, nous, on était avec donc, Philippe Simo, qui est du Cameroun. Leïla Richard. Oui. Lui, il est malien.
Oui. Ivoirien maintenant.
Oui.
Ah bon,
moi, mais j'ai une nationalité, monsieur. Je ne t'ai pas dit ça.
Ah bon,
j'ai le passeport.
Ok, bon. Merci. Non, je t'aurais un peu vanné.
Mais non, t'inquiète, non, y'a pas de sujet.
On a gagné, on a gagné.
Tu ne vois pas dans quelle couleur je suis habillé. On a gagné.
Bon, d'accord.
D'accord, ok, merci.
Et tout ce qu'on dit, nous, c'est chaque fois, on dit franchement, les Ivoiriens sont contents. Ouais. En fait, peu importe d'où tu viens, si tu apportes la valeur ajoutée au pays, on t'accueille. Donc, parfois, toi, tu réponds quoi à ce que.
Ouais, quand les gens disent que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens.
Moi, je leur fais un enseignement sur la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Je dis souvent, quand je reçois un touriste, je leur explique c'est quoi la Côte d'Ivoire et l'origine de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas dit que. Lorsqu'on dit la terre de l'hospitalité, ça ne vient pas juste. C'est pas un slogan qu'on a écrit pour faire beau. Mm-hmm. Lorsque tu retournes aux origines, bon, on va dire, prenons à partir de 1960, mm-hmm. je pense. Le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, dans sa logique, ça devait être un bluffeur. Ça devait être quelqu'un qui aime le matu vu. Qui aime du matu vu. Mm-hmm. Qui aime des gens, mais venez chez moi, c'est beau.
Exact. Mm.
Donc, de par sa logique, il y a deux choses. Mm-hmm. Ça a permis de rendre les Ivoiriens fainéants. Mm-hmm. Le fait que je suis déjà beau. Donc, quoi? Venez travailler pour nous.
Exact.
Mmh. Venez découvrir notre pays parce que notre père fondateur vous invite et il a déjà tout mis en place. Donc ça conditionnait un peu le mindset des Ivoiriens. Mmh. Et derrière, le fait d'ouvrir la Côte d'Ivoire, ça permet facilement le développement. Mmh. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un peu comme le rêve américain. Mmh. Si tu viens en Côte d'Ivoire, peu importe ton origine, il suffit de retrousser les mains, les manches, et ça va marcher pour toi. Il faut creuser. Il n'y a pas plus, que ce soit pour les Ivoiriens, que ce soit pour les étrangers, c'est la même règle. Si tu travailles un peu, honnêtement, ça va marcher.
Et
ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays.
Oui.
Mais en Côte d'Ivoire, c'est le cas. Parce que depuis l'origine, on aime faroter, ou mieux, on aime présenter notre pays à l'extérieur. Venez. Ouais, donc, c'est un pays déjà d'accueil.
Vous voulez que les gens viennent.
On veut que les gens viennent pour leur présenter notre pays, pour leur présenter nos ouvrages. Et ça n'a pas changé. Hein. Par exemple, la Cannes, pareil. Qu'on soit éliminé ou pas, venez vivre l'Américaine.
Oui, mais beaucoup de pays aiment recevoir des touristes et puis après, ils partent. Mmh. Là, quand les gens disent « votre pays ne vous appartient pas », c'est que…
On aime que les gens restent.
Vous aimez que les gens viennent et puis s'ils se sentent bien qu'ils restent.
C'est une politique, c'est un choix économique, c'est un choix social. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un monde de globalisation. Les frontières, moi je dis, les frontières, c'est juste sur les papiers. Il n'y a plus de frontières psychologiques, mentales. Ouais. Donc… un Ivoirien, un Malien, un Burkinabé, on est pareil. Mm. Moi qui ai fait le tour de tous ces pays africains, à la recherche de l'histoire, je dis il n'y a pas de différence entre un Ivoirien et un Malien. Mm. Pour ma part. Parce que je connais l'origine de ces peuples-là. Et donc, si chez moi, un Malien vient investir et il domine le secteur du riz, ça reste un Africain. Mm-hmm. Mais il domine le secteur. Il emploie qui ? Les Ivoiriens.
Exact.
La richesse, elle revient où ? Chez les Ivoiriens. Mm-hmm. À toi, Ivoirien, maintenant d'être plus malin, d'être plus intelligent, d'ouvrir ton propre business à côté pour concurrencer loyalement cette personne.
Mmh. C'est intéressant.
Mais ça reste un pays très ouvert, une économie très ouverte. Mais et c'est ça l'avantage même de la Côte d'Ivoire comparé à d'autres pays.
Mais c'est ça, c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs. Tous ceux qui viennent, au-delà du ressenti, bon, il y a la langue dont on a parlé beaucoup, qui fait qu'effectivement, vraiment, les Ivoiriens parlent un français qui est accueillant. C'est-à-dire que...
Accueillant.
Le moi, j'aime ça un français accueillant. C'est-à-dire que c'est un français sans stress, comme j'appelle ça. En fait, tu n'es pas stressé. Les gens sont là. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas... Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu sais, il n'y a pas... Je n'ai jamais eu le sentiment... Même, par exemple, je prends un autre pays qui se présente terre d'accueil, dont je n'ai pas parlé beaucoup, qui est le Rwanda, où les gens relativement parlent français et même des fois français et anglais tous dans le pays. Donc, c'est quand même un pays où c'est assez rare que dans les deux langues, tout le monde parle. C'est juste que, par exemple, au Rwanda, partout où tu arrives, la façon dont on regarde, ils savent que tu n'es pas rwandais, ils te le signifient. Alors qu'en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu quelqu'un me dire « je me sens comme si je suis un étranger ». Personne ne leur a jamais fait sentir. C'est-à-dire que j'ai des amis, le pire étant, effectivement, tu vois, des gens qui sont blancs, métis, chinois, japonais, dans la rue. Les gens peuvent... Le seul truc, c'est si jamais tu fais abstraction de l'attachement. C'est-à-dire que si on t'attache... Oui. C'est-à-dire que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on t'attache et on se moque de toi.
Mais on se moque. Non.
Mais c'est important.
Le mot moquer c'est... parce que... Au premier degré, ils ne vont pas comprendre.
Mais moi, on te fait des petits pics.
La première chose que j'ai compris, c'est le jour où on m'a expliqué.
On te chambre un peu.
Mais en fait, il faut comprendre pourquoi les Ivoiriens appellent ça attacher quelqu'un. C'est parce qu'ils créent un lien entre toi et lui.
Ah oui, c'est vrai que c'est.
En fait, le mot attacher.
Ah oui, c'est vrai.
C'est pas en fait, on t'attache parce qu'on veut te faire du mal. Non. On veut que toi et moi, on ait un lien. Une fois que je t'ai dit quelque chose, tu peux me dire quelque chose. Mais si je ne te dis rien...
C'est une relation toxique.
Voilà, il n'y a rien entre nous. Bon, c'est un peu... Il faut s'habituer. Mais du coup, les gens ne comprennent pas la logique de l'attachement. Moi, au début, je me disais, mais pourquoi dans ce pays, ils prennent tout à la légère comme ça? On dirait genre, rien n'est sérieux. Il n'y a rien qui est grave. Tu sais, mais en fait, j'ai compris que ce n'est pas qu'ils prennent rien au sérieux. C'est juste que si le verre doit être à moitié vide, ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Donc, ils vont juste regarder sur le moitié plein.
On est déjà né.
Et ils,
déjà
voilà, né. Et ils veulent t'amener avec eux dans leur truc. C'est-à-dire qu'à la limite, ils préfèrent que personne ne plombe l'ambiance. Donc, il faut aussi le voir comme étant quelque chose qui... Moi, je pense que c'est important que les gens qui viennent... j'ai des amis qui m'ont posé la question plusieurs fois en me disant « Mais qu'est-ce qui t'a le plus choqué ici ?» Moi, ce qui m'a le plus choqué venant du Mali, je me souviens, c'était le fait que les gens soient aussi directs. Mais c'était admirable, dans le sens où, s'ils veulent de l'argent, ils vont te le demander. Ils vont pas te flatter, ce qui est le contraire du Mali, où en fait, il y a une grosse couche de flatterie qui entoure toute demande. Ici, ils vont te dire point blank. Moi, je n'oublierai jamais. On était à Noël. Je crois que ouais, quand je suis arrivé, il y avait Noël juste après. Mon gardien qui me dit « Ah, tonton, c'est Noël. Joyeux Noël. »
Ah oui, non.
Je dis « Oui, pas de souci. Joyeux Noël, toi aussi, tu vois. »
Moi, mes gardiens, ils me disent « Mais on est en février. »
Et en février, et mon cadeau. et puis mon cadeau. Je lui dis « Comment c'est ton cadeau, frère ?» Je lui dis « On n'est pas dans la même famille. » Il m'a dit « Ah, mais on est dans la même maison. » Et puis après, je lui dis « Non, moi, je suis musulman. » Il dit « Ah non, mais il y a foi, je viens pour le ramadan. » Je te jure que le ramadan d'après, le gars m'a corcoré. Il m'a dit « Ouais, mon gars, sans baisse, je se fête. » J'ai fait « Ah ouais, tiens, prends ton argent, tu es concentré. » Non, il n'y a pas de problème.
Franchement, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays, je ne sais pas pour les autres pays, je sais, mais pendant Tabaski ou ramadan, c'est le seul pays où les chrétiens sont plus concentrés, même si la fête
mais
sur
oui.
le temps, que même les propres musulmans. C'est-à-dire que moi, je prends mon répertoire à côté, je dis, bon, toi, lui, les musulmans. Je fais des appels 2 jours avant la fête.
Pour te positionner. Qui m'invite ?
Qui m'invite ?
Pour se positionner pour son mouton. Mais oui, ça, c'est un truc régulier.
J'ai fait 3 ans.
Tu as fait 3 ans au Mali, c'est vrai ?
3 ans au Mali ? Mais non, mais non.
Jamais ?
Jamais, ils vont pas t'inviter.
Non, les Maliens, si jamais ils ont pas une relation avec toi qui justifie.
Mes collègues. Personne ne m'a invité. C'est moi-même parfois je dis attends, vous m'invitez pas ou bien.
Ah ouais, non, ça c'est frappant. Ça n'arrivera jamais.
Et en Côte d'Ivoire, c'est impossible.
J'avais un ami camerounais musulman qui avait vécu au Mali, qui tuait son mouton et il invitait tout le monde. C'est comme ça qu'on fêtait.
Oui.
Mais en Côte d'Ivoire, non, le mec, tu l'as pas invité, il porte le plus beau boubou. Il arrive chez toi.
Oui,
au calme. Moi, j'ai au moins 3 boubous à prêter déjà.
Prêt.
C'est-à-dire, je fais le petit déjeuner chez quelqu'un, le déjeuner, le dîner. Je suis au moins 3 familles.
Voilà.
Je suis exigeant.
Et tu en tiennes les maisons.
Exigeant sur la nourriture. Pas trop d'huile chez Koulibaly. Pas trop de cumagi chez Moustapha.
Et on voit plein de posts sur les réseaux sociaux. On voit plein de posts sur les réseaux sociaux. Tous les chrétiens postent plus que les musulmans.
Plus que les musulmans.
Ils disent, les gars,
qui m'invite ?
La fête arrive.
Et tu vois, en fait, comme tu as dit, c'est attaché. Il y a un lien
qui est créé.
Mais moi, je me souviens, comme je me dis, j'étais ado ici. J'étais au lycée.
Oui, c'est vrai.
Et je me souviens que j'étais chez moi tranquillement et un ami de ma classe est venu avec un sachet et puis il y avait la viande dedans. Je dis pourquoi ? Il dit ah non, c'est la fête et tout. Et j'ai dit ah ok.
Non, au Mali, ça, ils vont le faire.
Mais,
ouais.
mais
non,
du coup, Mali, ça me frappe que dans d'autres pays parce que comme je suis habitué
à... T'es habitué à ça. Ouais. Mais je pense que ce qui va plus loin, c'est qu'au-delà, par exemple, moi, j'ai par exemple autre chose, c'est que j'étais choqué par la puissance de Pakinou.
Ah oui, oui. C'est
la fête de Pâques, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous voulez vous ambiancer en Côte d'Ivoire, il y a quand même un moment qui est sacrément puissant. C'est
par contre, si votre nounou est baoulé, ça
c'est compliqué.
Il faut voir le recrutement.
Il faut
gérer le recrutement à ce moment-là.
Alors, Pakinou, c'est la fête de... Enfin, laisse... Pakinou,
en Côte d'Ivoire, dans le pays,
non,
à Caen, chez les baoulés,
très sérieux.
C'est En réalité, c'est la période dans laquelle, pendant laquelle les Baoulis se retrouvent pour fêter, pour régler tous les problèmes, on va dire, pendant la fête de Pâques. Et ça tombe, en fait, en avril. Mais il faut comprendre que c'est, à Boaki, c'est pendant le mois d'avril, c'est là qu'ils ont fini leur récolte.
Ah, c'est pour ça qu'ils font
les règles. Et ça tombe, en fait, à la Pâque.
Donc, ils règlent les problèmes à ce
moment-là. Donc, ils règlent les problèmes, ils fêtent, les funérailles, qui n'est pas parti à tel. Et ça tombe, en fait, à la Pâque. Donc, c'est pas parce que c'est... La fête religieuse,
c'est ça.
Mais non. Après, ça a été transformé. Et
puis, donc, fête plus que le 31 décembre.
On fête plus que le 31 décembre.
Oui, c'est plus que Noël.
Pâquinou, c'est compliqué.
C'est beaucoup plus. Même la ville est plus décorée que Noël.
Ah oui.
T'as plus de promos pendant Pâquinou.
Pâquinou ?
Non. Mais là, pour le coup, c'est très baoulé.
Aujourd'hui, c'est plus baoulé. Aujourd'hui, Pâquinou appartient à toutes les ethnies. C'est-à-dire, Pâquinou appartient à toutes les ethnies. Le menu de Pâques est déjà connu pour tout le monde. Sauce pistache avec pintade, un peu de foutou. Donc, tout le monde a presque le même menu. Un peu de sauce aubergine, guaguassou à côté. Et tout le monde connaît.
Et dans le milieu de la communication, c'est un temps fort, comme Noël, fête des mères, etc. Noël. On dit, les gars, qu'est-ce que vous proposez pour Pâques?
Plus que Noël, mais c'est très rural.
Moi, je pense... Et puis surtout,
plus que Noël.
Plus que Noël, et je pense que ce qui est marquant, c'est que c'est aussi le seul moment aussi où les gens... Beaucoup, ils rentrent dans leur village, je pense.
Exactement. Voilà,
oui. Donc, beaucoup, ils te proposent. Moi, c'est la première fois que je voyais des gens me dire « Ah, tu viens, on va à mon village. » J'ai dit « Mais wesh, en vertu de quoi, en fait, genre ?»
En vertu de quoi ?
Non, mais je ne sais pas. Mais alors que ça ne m'a jamais traversé l'esprit que quelqu'un me propose à Bamako d'aller dans son village. C'est pas comme si on y retourne comme ça.
C'est vrai.
Mais ici, c'est vrai, moi aussi, j'étais habité ici, dans deux, trois villages. Les gens aiment te montrer.
Le village.
Oui, t'as mis dans leur village, viens chez moi, viens voir. Ce côté hospitalité. Il faut comprendre qu'il n'est pas lié qu'à Abidjan.
Du tout.
Il n'est pas qu'économique. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc, il y a des occasions, c'est important pour eux que tu vois chez eux et que vous faites des choses ensemble. Et ça, c'est vrai qu'un autre truc que j'aime beaucoup avec la Côte d'Ivoire, mais ça, on en parle très peu. Je ne sais pas à quel point les gens l'ont documenté, parce que je n'ai jamais vu de stats dessus. C'est que c'est le seul pays où j'ai vu autant de familles où il y a les deux religions. C'est-à-dire que tu vas avoir un père musulman, une mère chrétienne. Les gens peuvent être tous musulmans, tous chrétiens ou un peu des deux. Alors que en général, ça pose aucun problème. C'est vraiment rare. C'est-à-dire que j'ai rarement vu des familles ailleurs dans le monde. Et là, je challenge les gens. Au Sénégal, c'est général les chrétiens. Si le père est chrétien.
Non mais.
Oui, mais après ils sont toute la famille.
Attention.
Il y a deux cimetières au Sénégal.
Ils sont enterrés ensemble. Mais au Sénégal, ce qui m'avait marqué, c'est que souvent ils avaient tous la même religion dans une famille. T'avais pas au sein de la même famille, j'ai rarement vu des gens qui ont deux religions différentes.
Oui.
C'est-à-dire que tu vas avoir le père et la mère peuvent être de deux religions différentes, mais les enfants sont tous d'une religion. C'est-à-dire que s'ils ont pris la religion de leur père, c'est leur père, la religion de leur mère, c'est la mère. Ouais. Alors que les Ivoiriens, tu vas avoir dans la même famille, les deux parents peuvent être chrétiens, les enfants sont tous musulmans.
Musulmans.
Aucun rapport, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelque chose qui était descendu. Ils sont vraiment, et ça m'a impressionné parce que c'est pas, du coup, c'est plus de la cohabitation. C'est juste, c'est pas un sujet
tolérance.
De discussion.
C'est la tolérance.
Voilà, c'est un sujet qui n'est pas lieu à division. Tu peux pas diviser quelqu'un sur le fait que c'est un musulman. C'est ça que ça m'a beaucoup surpris quand c'est arrivé à des époques sombres avant en Côte d'Ivoire.
Oui, mais c'est ce que toute l'Afrique dit. Je sais pas si vous le ressentez, vous de l'extérieur, mais moi, que ce soit mes oncles et plus âgés, en fait, sous la crise en Côte d'Ivoire, etc., en fait, je sentais même dans ma famille, les gens étaient choqués parce que ça remonte à très longtemps. Pour eux, la Côte d'Ivoire,
n'est pas
c'est
comme ça.
L'éléphant d'Afrique. C'est chez eux, quand on a un problème, allez, on va en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous explique un peu. Et puis, des parages. Donc, quand il y a eu la crise, les autres pays étaient vraiment, vraiment choqués.
Oui.
Ça, c'est vrai. Bon, donc, je ne sais pas si ça a laissé des traces, mais c'est vrai que c'est les seuls moments où les gens, des fois, parlaient de « Ah oui, t'es plus musulman, t'es plus truc ». Et c'est là où est le concept. Alors, je ne sais pas à quel point il existe encore l'ivoirité, parce que s'il existe encore...
Après, là, on rentre dans un sujet qui est encore plus... Enfin, là, on parle vraiment plus politique
ouais,
que sociétal.
Mais c'est vrai qu'il fait un peu peur aux gens. C'est un sujet,
alors,
je pense que...
Alors qu'il ne devrait pas faire
c'est ça. C'est
en
ça.
Réalité, l'ivoirité, de ma compréhension, après lecture des textes...
Voilà.
c'est un peu comme la vie à la française. C'est quoi les codes de l'ivoirité? Donc, un ivoirien, c'est ça. Un Ivoirien, il mange comme ça. Un Ivoirien, il fait ça. C'est juste les codes, en fait.
D'accord.
Donc, tu peux ne pas être même Ivoirien et vivre...
Comme un Ivoirien.
Vivre à l'Ivoirien.
Oui, mais après, c'est qu'on a emmené ça maintenant côté politique.
Mais ça a été politisé.
C'est, tu vois, pour être totalement honnête, Prince, c'est que nous, quand on se dit tu peux faire ce que tu veux en Côte d'Ivoire, tu peux trouver un emploi, tu peux entreprendre, etc. Chaque fois, il y a la blague entre étrangers. Tu dis, par contre, leur affaire de politique...
faut pas mettre ta bouche dedans.
Voilà.
Faut le laisser.
Tu vois.
Tu laisses la politique, exactement.
Voilà. Et c'est légitime. Moi, je voudrais juste qu'on fasse un petit, entre guillemets, un petit jeu. Parce que Moulay a dit, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand justement la manière de parler de manière directe.
Oui.
Ouais, ce serait bien d'avoir dans le public ou en ligne des gens qui nous disent qu'est-ce qui les a le plus marqués, que tu pourras peut-être décrypter, peut-être expliquer. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que nous, c'était important. Quand on parle de s'installer en Côte d'Ivoire, les gens, ils parlent beaucoup business, boulot, etc. Mais nous, on est persuadés que ce qui fait que tu te sens bien, c'est un équilibre. C'est ton épanouissement, ton intégration dans une société. Mmh. Ce n'est pas que les contrats que tu vas avoir, le boulot que tu vas avoir, le salaire que tu vas avoir. Ça va être comment est-ce que tu t'entends avec ton voisin, ton gardien, avec la société. C'est là que l'épanouissement se fait. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... particulièrement
marqué,
pour pas dire choqué?
Non.
Lorette, ils disent rien en ligne?
Non, ils disent rien, je pense pas. Hein. Mais tiens, dans le truc que je voulais savoir, du coup, si toi aussi ça t'est arrivé avec le tourisme et les gens qui arrivent, c'est quelles sont les peurs que les gens ont eues que tu as vu le plus vite disparaître quand ils arrivent? Parce que je pense que moi.
Les idées reçues, tu veux dire?
Ouais, ou les peurs qu'ils ont. Ouais.
Oh, je dirais la sécurité.
Très vrai.
La sécurité. C'est surtout avec c'est beaucoup avec les anglophones que je ressens ça. Surtout ceux qui viennent du Nigeria.
Ouais, mais moi j'avais un ami là qui est venu pour la CAN d'Afrique du Sud.
Oui.
Il dit que il était en fait
mal à l'aise.
Oui, parce qu'il est habitué lui à être
à tenir son téléphone.
Ouais. Son téléphone.
Et là il dit mais personne me calcule.
Tu vois pas. Tu vois, par exemple, moi, j'étais à Lagos il y a quelques années. Les soirées fermées à 3 heures. Ils commencent très tôt. Ils finissent peut-être à 3 heures, 2 heures du matin. Et j'avais mon groupe de Nigériens. Je leur disais, bon, laissez-moi, je vais dormir. On se retrouve à 2 heures du matin. Je vais me récupérer.
Pour le deuxième round?
Non, pour le premier round. Parce qu'on a commencé le before. Je vais me poser un peu à 2 heures du matin. Je vais me récupérer. Mais il y a 2 heures du matin, comment? À 2 heures du matin, on dort? Je dis non, ici,
c'est, comme en
c'est à 2h du matin, le DJ se réveille.
Oui, c'est donc, vrai qu'ici, il y a...
Et voilà quoi. Et donc, le gars était choqué. Mais à 2h du matin, est-ce que c'est sécurisé?
Non, c'est vrai que la sécurité, c'est un très bon point parce que ça, c'est vraiment... Autant les Occidentaux que les autres Africains, c'est le truc qu'ils ont le plus de mal à accepter que c'est plus safe ici que beaucoup d'autres endroits.
C'est vraiment safe. Tu peux marcher ici à des heures dans des communes. Je n'imagine pas.
Après, il ne faut pas dire que ça... Faut pas
c'est
dire
pas
que... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut...
Non, il ne faut pas aller à Bobo. Ah non, mais toi aussi. Mais qui t'envoie là-bas, en fait? La nuit, en fait. Non, en fait, moi, mon point principal...
Non, mais
en fait, mon point... Non, c'est pas ça. Non, en fait, je donne un exemple.
Non, faut pas stigmatiser non plus.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas être dans la situation... Moi, je suis déjà allé à Yopougon manger mon porc au four et il était 4 heures du matin.
Moulay.
C'est pas ça le point. Mais j'ai pas eu peur. Donc c'est que les gens, il faut que tu réalises ce qu'on appelle la sécurité. C'est-à-dire que moi, il y a un point qui me préoccupe toujours, c'est il faut qu'on regarde les choses dont on parle. C'est-à-dire que partout dans le monde, il y a des endroits où tu n'irais pas à certaines heures. De Paris à Washington, en passant par Tokyo, il y a des coins où tu n'iras pas à certaines heures. Donc c'est valable ici aussi. Là est le point. Ce que moi, je veux évoquer, c'est que tu n'es pas en vigilance constante. Ce qui est très différent de Lagos, par exemple, où il faut dire la vérité, si tu n'es pas vigilant, c'est ton problème.
Non, mais...
Et moi, le plus violent, c'est l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'Afrique du Sud. Mais c'est le seul pays où toutes les personnes à qui je parle se sont fait ou agresser ou connaissent quelqu'un de leur famille qui s'est fait agresser.
Franchement.
Et ils te le disent. Ah oui, non, mais moi, on m'a cambriolé. Je me suis réveillé avec un pistolet sur mon torse. Ma femme aussi avait un pistolet sur sa tempe. Ouais. Et ils te disent, non, mais t'inquiète, ça arrive à tout le monde. Je dis, non, en fait. En fait, comment t'expliquer? Je ne veux pas que ça m'arrive, en fait.
Tu vois, c'est comme j'ai un client, il me dit, est-ce que tu vois, moi j'ai ma carte sur moi, j'ai peur de prendre du cash parce qu'on ne sait pas si on va me voler en fait.
Un client
cash.
Qui était ici.
Oui.
Un client sud-africain.
Un client sud-africain, puis un autre client nigérien, que j'ai peur de prendre du cash sur moi.
Oui.
Ton cash, c'est ton cash.
Personne
ne va te le prendre. Peut-être ils vont trouver d'autres moyens de t'amadouer pour que tu leur donnes de l'argent.
Ça c'est clair.
Mais allez te dire dans mon non.
C'est très rare.
Tu vois? Mais à Lagos, tu vois déjà, pour ceux qui connaissent Lagos, c'est que c'est... Lagos, c'est une seule ville, mais c'est deux mondes complètement différents.
Il n'y a rien à voir.
De Via, de Main Island, du Main Island.
Du Main Island à VI.
À VI, Victoria Island, c'est...
Ça n'a rien à voir.
C'est, ça n'a complètement rien à voir. Donc le mindset, nous, je me rappelle, on disait, c'est interdit. En 2000... 2010, je faisais un stage à Lagos. Donc, un stage de 6 mois. Et c'était pour l'UNICEF. Donc, le bureau était là et notre hôtel était à côté. Les gars disent, hey, gars de corps et tout, on dit non, les gars, vous ne vous promenez pas. Mais il y a du kidnapping. Kidnapping. Nous, c'est dans les films, on voit kidnapping.
Oui.
Abidjan, kidnapper quelqu'un. La rançon ne va jamais arriver. Je dis, pour nous, c'est pas. Le mot kidnapping, même, je ne sais pas si les Givoriens emploient.
C'est pas fréquent.
Qui pense à kidnapper quelqu'un?
C'est ça dont il est question. Il y a, bien sûr, partout, il y a du crime. On ne dit pas qu'il n'y a pas de crime en Côte d'Ivoire.
Ah, il y en a.
Il y en a. C'est ça. Et voilà.
Ici. Non, non. C'est différent. Tu vois, Abidjan, il y a des périodes. On te dit, il y a des élections qui arrivent et les enfants vont disparaître. Maintenant, ça peut être parce que les élections arrivent, que les gens kidnappent. Il y a des raisons. Non, on va dire que c'est saisonnier. Ça existe, mais c'est tellement...
En fait, c'est... Alors, ce que j'aime bien dire...
Les souvent... élections, c'est chaque 5 ans. Donc, chaque 5 ans, il y a du kidnapping.
Non, mais non. Non, mais...
En France, c'est pareil. Hein.
Non, mais attendez.
En France, c'est pareil.
Ouais, là, le peuple commence à partir dans un grand débat. Non, mais attendez. En fait, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, la sécurité, c'est toujours quelque chose qui... Il n'y a pas d'endroit où tu n'as aucun risque. C'est-à-dire, si tu laisses ton enfant dans la street, où que ce soit du Japon à la Côte d'Ivoire, c'est pas safe. Je c'est dis ça, safe. C'est ton point de vue. Mais ce qui est très important à comprendre, et c'est ce que je veux essayer que les gens percutent vraiment, c'est qu'il y a ce qui est fréquent et tu le reconnais pas. Et c'est pour ça que je voulais que Prince soit là. Tu le reconnais pas à ce que disent les étrangers. Tu le reconnais à ce que disent les gens qui sont là. Si les gens qui sont là te disent, moi en Afrique du Sud, on m'a dit, Moulay, ton téléphone, t'arrête de le montrer. Ouais. Ça, tu peux t'inquiéter. En Afrique du Sud, quand tu vas à l'aéroport, au-dessus de l'entrée des toilettes, il y a écrit, merci de laisser vos revolvers à l'entrée des toilettes. Là, tu peux t'inquiéter. Tu vois, ça, en fait,
c'est
un autre monde. Quand tu vas au Nigeria avec ta boîte, ils te collent un garde du corps et ils te collent une escorte. Là, tu peux t'inquiéter. Donc, il y a des niveaux de la sécurité, en fait. Il ne faut pas que les gens confondent tout.
Il y a des niveaux.
Il y a des gros niveaux. C'est-à-dire que, bien sûr, on reste dans un pays où il y a énormément de misère et il y a des gens qui, à raison, parfois sont outrés quand tu displays ta richesse. C'est vrai. Donc, il ne faut pas dire non plus que tu peux aller te balader au milieu de quartiers populaires en te la racontant, à chez risqué. Mais le point principal pour moi, c'est que c'est vrai que, par exemple, un de mes amis sud-africains, du coup, Daré, qui est à la base un entrepreneur qui est béninois. Donc lui, il est béninois, il a grandi au Bénin. Il a fait 20 ans en Afrique du Sud. On sort, on va en zone 4. On est assis dans la zone 4, donc en train de prendre un verre dehors. Tu sais, comme souvent en zone 4, au bord de la route.
En terrasse, ouais.
Terrasse. Et je le vois, il n'arrête pas de regarder les gens. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, en fait, je ne comprends pas comment à cette heure-ci, il y a autant d'étrangers qui marchent avec leur téléphone à la main et personne ne s'inquiète. Je lui dis, mais de quoi tu parles? Il me dit, mais en fait, il dit, mais ici, c'est un paradis pour un braqueur. Je dis, mais qui t'a envoyé penser à ça? En fait, à l'heure là, on est calé en train de boire un verre, tu penses au braqueur. Et il me dit, Moulay, je suis désolé, mais c'est vraiment ce qui se passe quand tu viens en Afrique du Sud.
Ouais, tu commences.
Il me dit, en fait, ça fait partie de. Et il m'a dit que même aux États-Unis, il était mal à l'aise. Il trouvait que les gens étaient trop à l'aise. Si quelqu'un te dit, quand il est à Baltimore, qu'il trouve que les gens sont trop à l'aise, c'est qu'il vient d'un autre niveau de violence. Tu vois, et donc la sécurité, ce que je peux dire en Côte d'Ivoire, c'est que, en tout cas, je n'ai pas eu, par exemple, moi qui vis là depuis 6 ans, je n'ai jamais eu à donner de consignes particulières aux gens sur leur sécurité. C'est ça que je veux dire. Et il y a plein de gens que j'ai vu venir, partir, faire des trucs à des heures pas possibles. J'ai vu des gens bourrés dans la street, on a dû les ramasser, les mettre sur le côté. Enfin, c'est pas le sujet qui me préoccuperait. Et c'est ce que je veux vraiment faire comprendre aux gens, c'est que c'est légitime de demander. Il ne faudrait pas être ignorant et imprudent et pas demander. Mais ce n'est pas le sujet d'inquiétude. Ah, Laurette, tu as une question du peuple, c'est ça? En ligne?
Oui. Ça, j'ai des retours. Donc, il y a quelqu'un qui dit, je crois que c'est Nathalie, que elle, c'est quand sur Yango, à chaque fois que quelqu'un conduisait mal, il disait qu'il n'est pas intelligent.
Allez, ça l'a marqué.
Oui, ça l'a marqué. Une personne qui a dit la politesse, le fait de s'adresser avec l'autre avec délicatesse, ça l'avait surpris. Il y a un sens de l'ordre et du respect de l'autre en Côte d'Ivoire. Il y a une personne qui a souligné quand même que on décourage les gens d'aller à Yopougon, donc bon, au niveau de la sécurité.
On décourage les gens d'aller à Yopougon. Depuis quand?
Mais souvent, en fait, souvent même les.
Non, c'est vrai.
C'est les taxis même qui disent ça, parce que même moi,
c'est ce que les gens disent.
Là, on lui disait.
Attendez, excusez-moi, désolé, on s'entend plus, les gars. Eh, pardonnez 5 secondes, pardonnez. je sais que c'est fin de journée, que vous avez envie de papoter, mais tu as dit quoi ? Ton taxi, ton chauffeur, t'as dit quoi ?
Non, ce que je disais, c'est que mon ami qui est venu là récemment, il venait d'Afrique du Sud, un matin, il s'est levé, il a pris un taxi, il l'a payé pour la journée, pour un peu
tourner,
quoi. Et le gars, il disait, mais par contre, n'allez pas à Yopougon, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ça se trouve même lui-même, le chauffeur, il habite là-bas. Et tu vois, mais il cultive un peu, il cultive un peu ce
truc. Moi, j'ai un élément de réponse par rapport à ça. Mmh. Lorsque les gens vous disent que ne va pas à Yopougon, c'est pas parce que c'est pas sécurisé. L'Ivoirien regarde à l'habillement. On va dire, voilà. Moi, par exemple, je reçois des clients... Je reçois des clients d'un certain niveau, d'un certain standard, en fonction de ce qu'ils payent. Et ils me disent, non, je veux découvrir la Côte d'Ivoire, il faut que tu m'amènes à Rue Princesse et tu m'amènes à Yopougon. Je dis, moi, Michel Biensé, le magasin à Yopougon.
C'est ça. Même moi,
non, c'est pas ignorant ce que je leur dis. Ah, moi, je vais pas là-bas, non, je te conseille pas d'y aller. C'est pas parce que c'est pas sécurisé. Oui. C'est parce que moi, je connais pas, je fréquente pas. Et en plus, je me dis, non, mais toi, tu ressembles à Cocody. Tu ressembles à un résidentiel. Non, je ne te vois pas trop dans le standard de là-bas.
Exactement.
Tu vois, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas sécurisé. Ce n'est pas l'aspect violence ou... Non, c'est juste qu'on te dit, toi, tu ressembles à quelqu'un.
C'est là-bas où tu
vas boire du cheu. Tu ne vas pas boire trois casse-têtes.
Il se dit que Yopougon n'est pas pour toi.
Ce n'est pas pour toi. Ça n'a rien à voir avec la sécurité du tout. C'est qu'on a catégorisé les quartiers en fonction de ton pouvoir d'achat. C'est simplement ça.
Mais oui, effectivement. Moi, je sais que dans mes employés, il y en a un, Ilan, qui est notre premier employé, qui est... Moi, je pense que ce gars, c'est un Ivoirien à la base, mais c'est un hippie profond. Lui, sa vie, c'est Yopougon. C'est-à-dire que vraiment, et depuis le début, mais parce qu'en fait, ça correspond vraiment à son lifestyle. Et à chaque fois qu'il nous amenait à Yopougon, je suis allé à leur coin, à Azagé, qui est au bord de la lagune là-bas. Oui. Ils ont des très bons coins.
Bah, Sangon et tout. Tu
ils ont des coins magnifiques. Ouais, c'est juste que vraiment, c'était pas mon délire. Après, il faut assumer, en fait. Je sais pas pourquoi.
Et puis, quand t'as à Cocody, c'est pas à côté.
Voilà, mais lui, par exemple, il n'a jamais mis les pieds au Bloom. Même si tu le payes,
il va pas y aller.
Il va pas y aller.
Non, il y a des gens
parce que ça le
Bloom.
Pour lui c'est
le Bloom. Et faut expliquer ce qu'est le Bloom. Le Bloom, Jah va vous expliquer.
Non, le Bloom,
il y a des lieux clés.
C'est un lieu, c'est une adresse, c'est un spot, c'est une boîte de nuit, lounge, on va dire ça ainsi. Abidjanaise à la mode depuis quelques années.
Mais ils se sont maintenus à la mode plusieurs années. Comme. Alors que normalement, quand t'es à la mode,
Abidjan, toi tu es à la mode un an, deux ans après tu tombes. Mais je pense que c'est une très bonne stratégie. C'est la stratégie du créer le complexe.
Bien sûr.
Tu vois, le fait, tu viens puis on te cale. Tu as envie de revenir après.
Tu as envie de rentrer.
Tu vois ? Et donc, au fur et à mesure, voilà, donc, ça marche bien. Et ça marche très bien, cette période-là. C'est tout en plein.
Tout en plein.
Tout en plein. Et donc, c'est un peu ça aussi.
Oui, je pense qu'il faut se dire aussi que oui, ça, c'est peut-être pour revenir aussi, en parlant, peut-être parler un peu des autres choses qui sont dans la vie de tous les jours des gens. C'est qu'en fait, moi, je dis souvent aux gens, Abidjan est peut-être l'une des villes aussi qui a le plus d'univers qui coexistent. T'as vraiment des univers. C'est-à-dire que tu peux avoir des vies complètement différentes dans Abidjan. Selon tes centres d'intérêt et selon même ce qui est ta personnalité. C'est-à-dire que, par exemple, Ilan est un très bon exemple. Lui, il est venu de France avec moi, mais on ne va pas dans les mêmes endroits à Abidjan. C'est-à-dire que quand je lui dis, viens, on va dans tel restaurant, il va me dire, ah, t'es coin là. Ah, t'es coin. Non. Donc, il y a des justes milieux où on peut s'entendre. En général, c'est les maquis. C'est là où tout le monde réussit à s'entendre. Mais il y a des choses que lui a envie de faire qui ne me traversent même pas l'esprit.
De la même manière, il y en a qui, chaque week-end, il faut qu'ils aillent à la plage.
Oui, chaque week-end, il faut qu'ils aillent à la plage, par exemple. C'est un truc qui me dépasse.
L'exemple parfait, c'est les veilleux. Tu vois quand les veilleux arrivent.
Oui, les veilleux.
Les veilleux arrivent en Côte d'Ivoire.
Tu connais pas les veilleux,
les veilleux, c'est
alors, c'est voyage de volontariat international.
C'est des stages sponsorisés par la France.
Sponsorisés par la France.
Voilà.
Voilà. Donc, qui viennent prendre des postes ici, en fait, en Afrique.
Dans des grands groupes français.
Mais eux, quand ils arrivent en Afrique, je sais pas s'ils ont un groupe WhatsApp pour leur donner des adresses.
Ils vont tous au même endroit, ouais.
Ils vont tous au même endroit. Mmh. Et il y a un gars qui m'a envoyé à Blokos, dans un coin. Je dis,
oui, Blokos, c'est leur territoire.
Blokos, c'est leur territoire. Les gars, ils sont... Je dis, on va chiller un peu, on s'en va, on va à l'adresse. Mmh. Après, on va à la résidence. Après, on va au Noum prendre un verre. Il me dit, non, allons-y à Blokos, dans mon coin.
Dans son coin à Blokos.
Dans mon coin à Blokos.
En face de la lagune, là.
Et tu vois, c'est dans tout son chocoyen, hein.
Oui.
Le gars, et je le vois, je dis, non, mes gars.
Donc même toi, des fois, tu es dépassé.
Non, mais c'est
dépassé.
Ce qu'on dit. En fait, il y en a pour tout le monde.
Oui, il y en a pour tout le monde.
Il y en a pour tout le monde. Vois, c'est pour ça que les gens disent, Abidjan est cher, je dis.
Ça attention. Dépend.
Abidjan est cher pour le niveau de vie que tu veux mener à Abidjan.
Amen. Ouais. C'est vrai.
Il y en a pour toutes les poches. Hein.
Oui.
Si tu veux faire ton gasoil, t'es sorti à 200, tu veux dépenser 200 000, il y a des endroits où tu vas dépenser 200 000 une soirée.
Peut-être parlons de la cherté, je pense que, parce que c'est un vrai, vrai sujet.
Oui.
Tu vois, on a parlé des salaires, mais le sujet qui revient souvent, c'est
la cherté de la vie.
Les logements,
la
vie tu vois. Est-ce que pour voilà, des gens de la diaspora, ils se disent, eux, ils ont entendu Cocody. Ouais, ouais. Ils ont dit Cocody, donc il faut forcément que j'habite à la Riviera 3, etc. Toi, tu penses quoi des prix des loyers là aujourd'hui? Ça augmente tout
ça
le temps.
Ça augmente trop, c'est abusé. C'est, pour ce que c'est abusé.
Mais du coup, est-ce qu'il y a des alternatives? Tu n'es pas obligé d'être dans la nouvelle résidence qui vient d'être inaugurée.
Moi, je travaillais à Macquarie avant, sur le boulevard en face de Cap Sud, dans un hôtel. Et j'avais une collègue qui habitait à Yopougon. Et moi, j'habitais encore à la Palmeraie, on va dire ça ainsi. Mais elle arrivait avant moi.
De Yopougon.
De Yopougon. Tiens. Elle arrivait tous les matins avant moi. Alors que moi, je quittais plus tôt. Hein. Rivière Palmeraie. Tout l'embouteillage de la 3, de la 2. Et en ce temps, il n'y avait pas encore le pont. Donc,
Faisais le tour.
Le tout.
C'était avant le troisième pont.
C'était avant le troisième pont.
Ah oui, parce que maintenant, on a un troisième pont, les gens qui ne savent pas.
Oh, ça date.
On pète le feu.
On pète le feu. Et donc, elle venait simplement de Yopougon, elle prenait l'autoroute là. Tout direct. Elle arrivait au plateau, elle arrivait avant moi. Et elle payait un loyer pour 3 pièces à 100 000 francs par mois.
Oui,
je suis allé voir son appartement. Il est plus grand, il était plus grand que le mien, plus spacieux. Mais juste qu'il était à Yopougon.
C'est tout.
Moi, j'étais dans 2 pièces. Je paye 200 000 francs. C'est incroyable. Mais parce que dans ma logique, je me dis, bon, tous mes amis sont à Cocody. Les endroits que je fréquente sont à Cocody. Mes parents sont à Cocody. Les restaurants que j'aime sont à Cocody. Pourquoi j'allais habiter à Yopougon? Ça, c'est un véritable problème qu'on a pour les gens qui viennent ici. On n'arrive pas à marketer Yopougon ou bien certains quartiers d'Abidjan comme des quartiers dans lesquels on peut vivre bien. Alors qu'il y en a et qui coûtent moins cher.
Beaucoup moins cher.
Au lieu d'aller prendre un petit studio, ils appellent ça studio américain, mais franchement, je pense que c'est un studio baoulé. À Cocody, et tu vois, le gars, il te vend le rêve que ça, c'est un studio américain, mais bon.
Mais en fait, c'est un truc intéressant d'ailleurs, parce que je pense, dans notre programme, on en parlera plus longuement avec Aïe, mais même au sein de Cocody, il y a différents Cocody. C'est-à-dire que il faut que les gens réalisent. C'est-à-dire que ça dépend aussi de tes contraintes. C'est-à-dire que typiquement, si tu vas au boulot tous les jours, ça dépend d'où est ton boulot. Tu n'as pas les mêmes sujets.
Non.
Moi, je sais que typiquement, à chaque fois que les gens viennent vers chez nous, là, quand ils voient mon appartement, ils sont toujours hyper choqués que je dise que moi, je paye 450 000 pour un 3 pièces. À Abidjan, les gens trouvent ça hyper pas cher.
Non, mais même toi, tu as demandé à ton propriétaire.
Non, bon, après,
il était surpris.
Voilà, il a ajouté 28 000, là, il n'y a pas longtemps. Mais là, ça, c'est cadeau. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est parce que je suis un peu plus éloigné. Mais si tu vas à Faya, si tu es prêt à aller jusqu'à Faya.
Au château, Engrais Château.
Ah, en haut, à Engrais Château.
Derrière en fait, moi, mon expérience sur ça, sur les prix des loyers, c'est vrai que tout le monde va vous dire que ça fait qu'augmenter, etc. Mais par contre, si tu as un plan de transition qui te permet de chercher ton logement sans être dans l'urgence.
Oui,
tu
as des bons
tu peux trouver un bon rapport qualité-prix.
Tu vas trouver.
Parce que tu vas tomber, par exemple, la stratégie de ton proprio, je crois, il disait, il ne veut pas faire trop cher parce qu'il veut que les gens restent longtemps.
Ouais, voilà.
Tu vas toujours trouver, en fait, quelque chose avec, bon, il y a les démarcheurs, tout ça. On va en parler aussi dans le
programme. Oui, voilà, il faut avoir un pipe. Il faut entretenir
sa
recherche.
Mais si tu es pressé, tu risques. Et ils le sentent que tu es pressé. Pardon?
C'est ces prix-là qu'on avait. Parce que quand on cherchait au mois d'août-septembre pour aménager, ben on n'était pas à 200, on était entre 500, 600 à côté de Jules Verne pour un 2 pièces, pour un 3 pièces, pardon.
Ton 200 000, c'était pas en 2024.
Mais ça, Engrais aujourd'hui,
en fait,
Engrais, Vège, Geste aussi.
La question, c'est vous cherchez où
encore, tu cherches où, tu cherches combien de pièces?
Parce qu'il faut donner les vrais prix.
Non, tu cherchais où et combien de pièces? On va déjà te dire.
3 pièces.
3 pièces.
Un 3 pièces.
Donc déjà, 3 pièces, c'est au-dessus déjà de 3. Disons 300 000 déjà.
300 000, tu peux trouver.
Le minimum.
Minimum. Voilà. Donc, c'est où dans quel quartier?
Ben, à proximité des écoles françaises, par exemple.
Ah, 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 ah,
mais attends,
voilà, la même chose qu'il fallait oublier.
Mais moi, je fuis les quartiers là.
Tu vas habiter à côté
de... 3 pièces à 1 million à côté des lycées français.
Mais monsieur,
c'est bon, j'ai trouvé à Bégerville et je suis bien.
Ah, voilà.
Tu as trouvé à Bégerville, tranquille.
Voilà. Non mais attention, du coup, pour les gens qui nous écoutent, il faut que les gens comprennent de quoi on parle. Parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus, qui ne savent pas de quoi on parle. Mais juste pour donner un peu de contexte, le lycée français, effectivement, à côté... C'est du lourd. C'est à côté, le quartier à côté, c'est Beverly Hills. Hein.
C'est Beverly Hills.
Ça s'appelle le nom du quartier. C'est-à-dire que là.
Tu vas mettre Théodore juste
en bas. Voilà, en fait, pour situer, pour moi, c'est comme si tu dis à quelqu'un, tu veux être dans la rue du 16e.
Voilà.
En fait, c'est ça la logique. C'est-à-dire que c'est le quartier, la zone la plus chère, dans la zone la plus chère d'Abidjan. Le seul endroit qui est pire, si tu dis que tu veux être en zone 4, et là, c'est Neuilly. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est un autre level.
Oui, mais tant qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire,
on sait pas.
Oui, d'où le programme.
D'où le programme. Merci, Prince. Tu vois, merci. Prenez le programme et puis on avance. Mais le point.
Donc prenez le programme.
Merci beaucoup. Non mais et le point important pour les gens, tout ce que je veux qu'ils comprennent, c'est que, en fait, pour reprendre ton exemple, même si tu veux être pendant les écoles françaises, c'est un problème légitime. Bingerville n'est pas si loin. C'est juste que les embouteillages pour y arriver vont demander une logistique différente.
Mais le gouvernement fait vraiment beaucoup d'efforts sur les embouteillages. Moi, je connais, bon, étant quinois, Kinshasa, tu as les embouteillages et bon, tu dois vivre avec, c'est tout, mais tu es bloqué, hein, tu es bloqué des heures et tout ça. Mais là, tu sens que il y a des tentatives de, on va goudronner là-bas, on va élargir telle voie, etc.
On va faire un échangeur.
Ouais.
Les gens qui parlent d'embouteillage en Côte d'Ivoire, ils sont jamais allés à Lagos. Hein.
Oui, non, ça c'est pas. Non,
ceux qui
non ça ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Ils ne sont jamais allés à Lagos.
Ou même à Nairobi, pour ceux qui veulent parler de
même
Nairobi.
À Nairobi.
Nairobi a des vrais niveaux d'embouteillage. Et comme dit Kai, le point surtout c'est à quel point tu peux te projeter. Parce que si vous venez vous installer, la question c'est est-ce que ça s'améliore. Ici, on peut vous dire une chose. Moi, je suis arrivé il y a juste 6 ans. Enfin, je pense que la majorité des routes que je prends aujourd'hui n'étaient pas là quand je suis arrivé. C'est-à-dire que juste les chemins classiques que je prends n'était pas forcément là il y a 6 ans. Mmh. C'est ça dont on parle. C'est très dur à imaginer quand tu as été très souvent en Occident. Et même pour moi, c'est dur à imaginer quand on est au Mali parce qu'il n'y a pas autant de changements aussi vite.
Mmh.
Ici, ils changent vraiment ça sur tout le temps. Et l'autre point qui est important, c'est que du coup, ce que j'aime bien ici, je trouve aussi sur les logements et cette logique de sujet, de charter de la vie, c'est que en fait, tu as aussi beaucoup de commodités qui suivent les nouvelles évolutions. Mmh. Tu vois, là tout à l'heure, Leila l'a évoqué dans la discussion précédente en disant maintenant, tu as Auchan. T'as Prosuma, qui est un groupe local. T'as énormément de facilité à faire tes courses. Maintenant,
ouais.
Ça, c'est si tu veux faire tes courses au supermarché. Ça, pour moi, ça, c'est la vie de Choco. Tous ceux qui se plaignent de dire c'est cher la vie à Abidjan, moi, je pose la question, tu fais tes courses au supermarché, toi?
Ouais.
C'est ça, la réalité. Moi, je n'ai pas mis les pieds dans un supermarché en Côte d'Ivoire, sauf si c'était pour les fêtes, pour acheter du foie gras, peut-être depuis un an. Je ne vais jamais dans un supermarché parce que... Même si t'as des enfants, j'ai des amis qui ont des enfants, mais dans ce cas-là, tu peux acheter plein de choses au marché et ailleurs. En fait, même un exemple simple, tes légumes et tes trucs de base, ton légume, ton riz, tes trucs, tu les achètes là-bas, t'es mal.
Et même pour donner un petit, allez, on donne un petit
bonus pour de Kai.
Moi, je vais, je vais maintenant faire mes courses à Soco Prix.
Rien à voir.
Et Soco Frais, qui sont en fait des supermarchés semi-gros, ils appellent ça.
Du semi-gros.
Voilà. Donc, tu achètes en plus grande quantité, mais ça te revient moins cher. Et t'as tout.
Et pour les familles, c'est ce qu'on recommanderait.
Parce que je vais pas faire mal à casino et compagnie.
Le problème, c'est qu'aussi les gens font leurs courses et comme ils les faisaient avant.
Et surtout, tu dois abandonner peut-être ton dessert préféré de Paris, parce qu'il y a des trucs là qui sont importés.
Merci les yaourts, dis-leur.
Ça coûte trop cher.
Moi, j'en parle pas du tout. Hein.
Non, mais comment j'ai dit ça dans un podcast de trois bars? Non, mais attends,
ça fait un gros buzz. C'est ça, vanille, là. C'est quoi encore?
Danette,
j'ai abandonné.
Tu as laissé Danette?
Non, mais moi, j'ai abandonné. Elle vire, tu vois.
Il y a plein parce que c'est fait ici.
Moi, j'ai abandonné.
C'est pas cher.
Mais ça coûte cher. Tu as le paquet de 4 qui te couvre à 4000, 5000, attends.
Non, mais.
Bon, mais j'aime trop les.
Yaourts. Si, you play 250.
Non, mais tu en as des moins chers. Mais ce que je veux te dire, c'est que le problème, c'est que les gens, par exemple, moi, je sais que, un exemple typique, ma mère est une très grande fan de fromage.
Ah ouais.
Cette affaire-là. Non, c'est un sujet. Non, mais après, Dieu merci, c'est aussi quelqu'un qui a d'autres plaisirs. Et en grandit au Mali, donc je lui ai rappelé, je lui ai dit, mais tu sais, jusqu'à tes 25 ans, maman, tu vivais dans un pays où il n'y avait pas de fromage, donc arrête de faire genre, tu ne peux pas...
Non, mais du coup, on s'habitue vite. Hein.
On prend vite goût. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un exercice dont on parlera effectivement dans le programme, c'est que souvent, les gens, quand ils s'installent, ils n'en profitent pas pour retravailler leurs habitudes.
Ouais.
Tu ne peux pas venir et dire, je vais copier-coller ce que je faisais là-bas. En vrai, tu pourrais. Hein. Non, mais en vrai, tu pourrais. Mais
ça te revient.
Ce que je souhaite aux gens, c'est d'utiliser l'occasion pour ça. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que ceux qui font ça, même en Europe, si tu leur posais la question, ils voudraient optimiser. Même en Europe. Mais c'est juste qu'ils ne le font pas. Si tu peux l'utiliser là, tu le fais.
C'est tellement vrai ce qu'il dit. Même quand tu es dans le même pays.
Ouais.
Quelqu'un qui vit à Paris puis il va habiter, je sais pas, à Bordeaux.
Ouais.
Bah, il change certaines choses dans sa façon de vivre. Je pense que plus on prend en âge, moins on a cette capacité à se dire bon, on va changer certaines choses, etc. Mais en fait, tu viens dans un nouvel environnement, tu ne peux pas avoir exactement
les mêmes habitudes.
Tes mêmes habitudes.
Hein. Et pour information, c'est souvent aussi l'occasion de faire des améliorations. Parce que typiquement, tu peux gagner en qualité dans ce que tu changes. Parce que je ne veux pas dire, mais honnêtement, le mode de vie occidental n'est pas exactement le meilleur ni pour la santé, ni pour l'efficacité. Surtout si on a la chance ici, il ne faut jamais l'oublier, on a la chance d'avoir des ménagères, des gens qui vous aident. Vous pouvez gagner en qualité. Des choses que vous pouviez faire que rarement en Occident, vous pouvez le faire fréquemment ici parce que le temps qui doit être mis n'est plus le même, ce n'est pas le vôtre. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Donc, il faut se rendre compte que oui, de ce qu'on gagne, on le perd quelque part. Mais moi, en tout cas, ce que je dis souvent aux gens, ça fait 6 ans que je suis là, j'économise infiniment plus d'argent que je le faisais en Europe, simplement parce qu'en fait, je consomme essentiellement local. Moi, ma base, c'est à checker. C'est-à-dire que
ah oui,
si tu
je
sors...
confirme, hein, lui, c'est...
Oui, lui, vient chez moi, il sait que c'est ce qu'il y a. À checker. Par contre, je mange avocat crevette tous les jours. Essayez de faire ça à Paris. Ça, vous calmez direct. Ça, vous allez descendre. Mais moi, mon avocat crevette, c'est chaque jour. J'ai même pas besoin de réfléchir. C'est même pas cher. Parce que je fais pas l'idiot et mes crevettes ne sont pas achetées au supermarché. Un autre truc débile. Mais les gens, n'achetez pas vos crevettes au supermarché. Moi, mes crevettes, j'ai un... Mais t'as un truc C-Box, qui est un gars qui achète aux pêcheurs directement à San Pedro. Ça, c'est dans la formation, on le mettra, ça. Ils m'en font les... Ça, je vais vous donner. T'inquiète pas. Mais en gros, mais même la viande.
Même la viande.
Il faut aller chez le boucher.
À l'abattoir.
À l'abattoir.
Ça coûte moins cher, à l'abattoir.
En fait, il y a plein d'endroits.
Place, si tu veux.
Oh non, faut pas faire ça. On va t'aider. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est
ça. Elle va appeler, c'est pas chez la viande.
Ah non.
Non, faut pas faire ça.
Faut pas faire ça. Hein.
En fait, le truc, c'est que le supermarché n'est pas l'endroit par défaut ici où tu trouves ni la meilleure qualité, ni les meilleurs prix.
Du tout.
C'est le supermarché, c'est juste, c'est le plus près.
Mais tu vois, ils essaient maintenant. Ils essaient d'intégrer des produits très locaux
dans
les supermarchés.
Oui, oui, de plus en plus.
Carrefour fait ça.
Oui, oui,
oui. Carrefour essaie de mettre vraiment des marques locales dans ses rayons.
Mais c'est moins cher. Ça nous on veut.
Ça dépend. Franchement, ça dépend.
Carrefour
fait beaucoup d'efforts par rapport à ça.
Ok.
Mais franchement, la viande, va l'acheter chez le boucher, au marché, ou à l'abattoir.
Mais en fait, je vais donner un exemple, c'est parce que les gens conçoivent le boucher comme étant plus cher que le supermarché. Mais ici, c'est moins cher.
Ici, c'est moins cher.
Donc, tu auras de la viande de meilleure qualité, moins chère que celle du supermarché. Donc, c'est un autre avantage à être là-bas. Donc, après, si les gens ont d'autres questions, n'hésitez pas.
Les gens
pas
en ligne là.
Ah, par contre, Prince, il faut qu'on parle.
Parce que les gens en ligne.
Ouais, les gens en ligne crient, ouais. Laurette, mais juste, vas-y, on voit qu'est-ce que les gens en ligne racontent là.
Pour une personne qui sort très peu, avec combien il faut vivre à minima par mois sur
Alain. Non, mais ça,
très
c'est.
Très peu, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi?
Franchement, c'est une
question vague.
Moi, je dis, je sors très peu à Abidjan.
Toi, tu sors très peu. Le peuple ne peut pas accepter ça.
Mais ça dépend. Mon très peu, c'est 2 fois par semaine. Alors qu'il y a des gens qui te diront très peu, c'est 1 fois par mois.
Non, mais attends, on va reprendre les choses dans l'ordre.
Tu parles de tes sorties la nuit, il y a aussi le jour. Tu reviens d'où là?
Tu reviens d'où? Et puis le problème, c'est qu'il y a sortie et sortie. Si tu dis tu sors qu'une fois par semaine, mais c'est pour faire le brunch d'Akula. Ouais. C'est pas la même chose que.
Ça équivaut à 4 sorties.
Non, mais après, c'est un style. Non, mais attention!
Surtout avec l'option champagne.
Avec l'option champagne.
Option champagne.
Non,
c'est stabilisé là.
Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les gens posent des questions qui nécessitent beaucoup plus de précision. C'est ça qu'on parle.
Oui, c'est
ça.
Il faut poser des questions.
Et ce que je veux dire, c'est qu'un exemple typique, quelqu'un qui sort pas. Moi, je donne un exemple. Typiquement, je sors pas beaucoup. C'est-à-dire que moi. Non, moi, je sors 2 fois par semaine en général de chez moi.
Comme moi.
Voilà. Mais c'est pas les mêmes endroits que toi. Là, la différence. Et les 2 fois, c'est-à-dire que, effectivement, si tu vas dans un resto, tu vas dire. Tu vas aller 1 à 2 fois par semaine au resto. Ça dépend aussi de quel type de resto qui fait plaisir. Ouais. C'est-à-dire que si effectivement, si tu te dis tu vas aller chez Richard, tu veux aller à Angus.
Alors qu'il y a Dabali Express.
La Dabali Express qui est à côté. C'est pas la même chose. Donc, en fait, il y a de tous les niveaux. Ce qui est bien à Abidjan, par contre, de la bouffe indienne à la bouffe mexicaine, à la bouffe locale, tout ce que vous voulez, il y a.
Non, mais ce qui bouffe vraiment le budget, c'est... Les Glovo, Yango, des
voilà. Ça. Quand tu es chez toi et que tu commandes,
tu peux commander comme ça.
En début de mois, il y a une suite qui a fait vraiment le buzz sur Instagram. C'est un Benguis qui disait qu'en 4 jours, il a dépensé 800 euros à Abidjan.
Oui, au tout début de la canne.
Il
a dit cette affaire est compliquée.
C'est compliqué. En 4 jours, il est arrivé, il a dépensé 800 euros.
Et il est surpris.
Il est surpris que c'est choqué qu'Abidjan est trop cher. Je lui ai dit, mon cher, si tu passes ton temps, soit au Bloom, aller s'asseoir au Noum ou déjeuner.
Et puis après, tu enchaînes des restos de la rue des Jardins.
La rue des Jardins, mais.
Mais mon ami, c'est rien.
Nous mais qui sommes ici, là. On sait, on connaît notre budget.
Mais attends. Et puis, c'est, moi, ces gens-là qui sont choqués. Mais ils auraient payé combien s'ils étaient allés, genre, aux États-Unis?
Oui, mais ils se disent pas que c'est.
Ils se disent
que
c'est l'Afrique. Il se dit c'est un pays africain.
Et tu sais, le franc CFA...
On
ne
s'attend pas à dépenser autant, en fait.
Le franc CFA, en fait...
Te blague, mais c'est l'euro, hein.
Quand tu vois 15 000... En fait, le fait qu'il y ait écrit franc CFA, pour toi...
C'est bas.
Mais c'est 20 euros.
C'est
20 euros.
Oui. Tu dis? Non, tu penses que c'est petit? Oui. Parce qu'en réalité, c'est 20 euros, comme il dit. 15 000, c'est 20 euros.
Oui. Et on te donne un cocktail...
20 euros.
Mais en fait, c'est pour ça que... En fait, moi, ce que je recommanderais...
C'est 15 000.
Et on verra dans le programme, on proposera un petit itinéraire aux gens. Parce qu'en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est quand t'arrives... Là, c'est un truc que je peux dire vraiment pratiquement...
Le sans... petit module, petit budget.
Non, voilà. Module, petit budget.
Il y a un module, petit budget.
Middle class et...
Et surtout, il y a un parcours, en fait, à faire. C'est qu'en fait, il faut quand tu arrives dans un nouveau pays... Moi, après, je dis ça, c'est que c'est pareil quand je suis arrivé en France. Hein, parce que bon... Je sais pas que les gens ne se rendent pas compte, mais moi, quand j'ai débarqué de Bamako, que je suis arrivé en France, le choc était aussi violent.
Tu m'étonnes.
Parce que je savais pas que l'argent pouvait partir aussi vite. Et je n'avais pas les moyens même d'aller au restaurant, donc c'était même pas dans ces sujets-là que je me battais. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en France, j'oublierai jamais, quand j'ai découvert que ça pouvait coûter aussi cher juste de manger même du riz et de la viande. En fait, tu sais, il y a des choses que tu prends pour acquis. Mais quand t'arrives, du coup, j'ai changé mon style. Il y a des choses que j'ai laissées. J'ai mangé comme les Français, des trucs que je ne mangeais plus. Tu sais, tu peux pas te lever et dire tu veux. Non, mais tu peux pas.
Je mangeais plus.
Non, mais en fait, tu sais. Non, mais la viande que moi je mange au Mali, par exemple.
Ça coûte rien.
Nous, la viande, c'est sérieux. Moi, il y a un vrai morceau de viande, on tape ça et puis ça gâte rien. C'est échauffement.
250 grammes par
repas. Propre, et puis c'est à l'aise. Mais en France, j'ai appris à laisser un peu. Ouais. Tu prends les nuggets, les trucs bizarres là, tu sais pas trop la provenance, est-ce que c'est vraiment.
Cheval.
Et tu t'accroches. Tu te dis, ça va aller. Mais. Le point principal qui est important pour moi, vraiment pour clôturer le truc sur acheter de la vie chère, c'est il faut aussi que les gens avec qui vous parliez de ça quand vous arrivez, vous leur demandiez. Je veux pas dépenser énormément dans ça, mais dans ça, je veux me faire plaisir. Il faut juste le dire. Il faut dire dans quoi tu veux te faire plaisir et dans quoi tu veux économiser. Mais tu ne peux pas juste dire je ne remets rien en question ou au contraire, je veux que me faire plaisir. Par contre, je déconseille les gens qui viennent en mode je veux que économiser. Parce que par contre, c'est la tentation ce pays, hein. Là, si tu regardes le Insta, non mais Tom, tu as vu, il y a des restos géniaux tous les jours, hein.
Ouf.
Donc tu ne peux pas dire
partout.
Voilà.
Ouf, chaque semaine.
Tu ne peux pas dire aussi, je vais venir et puis je vais faire économie de tout ici.
Et
ça
puis,
c'est
si
aussi.
Si tu t'es défini Choco, tu es obligé d'aller tester le restaurant.
Il y a un truc. Moi, parce que je fais des analyses, des études de marché pour les gens dans le tourisme.
Direct.
Et parfois, je discute avec des propriétaires d'hôtels ou restaurants, comment ils fixent le tarif.
Ouh, les hôtels, ça pique ici. Hein.
Ici, ils te disent que, bon, mon concurrent direct, il fait à 300 000 francs la nuitée. Moi, je suis nouveau, je fais à 350 000, il fait à 400 000 francs. Je dis, mais
de où?
C'est que tu es nouveau, mais tu n'as pas les mêmes capacités. Tu n'as pas les mêmes commodités. Tu n'as pas les mêmes services. Tu ne peux pas faire à 350 000, 400 000 francs plus que lui. Je pense qu'avoir un prix d'appel... Non, mais ici, ils ont compris que l'Ivoirien, dans sa logique, plus c'est cher, plus c'est de qualité. C'est comme ça que les Ivoiriens réfléchissent. Et donc, automatiquement, les gens vont faire un beau produit, là. Dès qu'ils mettent sa chaîne, dans les premiers mois, ça va marcher. C'est pour ça que le nombre de restaurants qui ont fermé en 2023...
Oui, c'était fou.
Mais c'est incroyable. Il y a des adresses, tu donnes déjà, ah, c'est fermé. Il y a des, ah, ça marche plus.
Ah oui, c'est vrai que toi, t'as remarqué ça?
Oui, mais c'est, moi, j'étais choqué. Parce que moi, j'avais tout un carnet que je donne aux mes clients. Je dis, allez-y, mangez ici, en fonction de votre budget et tout. Mais non, mais ça ferme, non, ça ferme. Il y a une nouvelle gestion. Attends.
Ah, donc ça aussi, c'est la vérité. Donc, il faut voir cet envers.
Ça, par contre, c'est un point très important.
Mais c'est alors...
excessivement cher, les hôtels. Et je dis souvent, dans le même Assini, prenons le cas d'Assini,
oui,
il y a deux Assini.
Oui.
Si tu veux une unité à 400 000, tu l'auras. Mais si tu veux la unité à 30 000, tu l'auras.
Tu l'auras aussi. À Assini. Hein.
Assini. Hein.
Oui.
Et donc, ça, c'est valable même à Abidjan, partout. Donc, en fonction de ce que tu veux. Tu vois, des fois, ils font des soirées la nuit à Assini. Il te faut louer une chambre.
Ah.
Tu vois, j'ai des amis, ils vont aller louer dans des chambres à 400 000. Je dis, bon, à Soindé, juste à côté.
Voilà.
Ah oui, ils te font à 40 000. La chose, on ne va même pas dormir. Parce que tu es venu juste pour t'échanger.
Pour la fête.
Pour aller faire la fête. Pourquoi j'ai pris une chambre à 400 000 francs?
C'est vrai.
Alors que c'est à 15 minutes.
C'est à 15 minutes. C'est pas logique. Donc, il y a tout ton, comme tu disais, il y a tout ton. Abidjan,
il faut savoir. Il y a
Abidjan pour ton budget.
Oui.
Le matin, tu te réveilles. Au kilomètre 8, il y a un petit coin de poulet.
Ah oui, le kilomètre 8, le trou du 8 là.
Le trou du 8 là. Tu peux aller manger à moins de 10 000. Oui. Mais tu n'es pas obligé d'aller manger. Je n'ai pas cité d'hôtel, mais où ils te font l'entrée à 24 000.
Si vous êtes capable. Il n'y a pas de négociation.
Il n'y a pas de négociation. Non.
Non, ah non, ouais,
ici,
oubliez
c'est
ça.
Fixe.
C'est ici,
fixe.
C'est fixe. Oubliez ça.
C'est fixe. Il n'y a pas de négociation. Franchement.
Non, non, ici, c'est fixe. Après, ce qu'il faut te dire, c'est en fonction de ce que tu veux. Et il faut juste. En fait, moi, j'ai souvent aux gens, vous pouvez te demander. Et l'autre aspect qui est important, c'est vraiment le pays pour moi de. L'humilité. Hein. En fait, c'est juste. Il faut s'asseoir et se regarder en face, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire toutes les meilleurs coins tout le temps.
Ouais.
Tu peux juste t'asseoir et te dire, OK, ce coin-là. C'est comme tout le monde, vous faites des signets sur Instagram et puis vous planifiez.
Mais comme tu le ferais dans n'importe quelle ville, en fait. Finalement, il y a des endroits où tu vas une fois par an, d'autres où tu vas deux fois par an.
Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Instagram.
Oui, c'est vrai ça. Oui, lui-même, il dit ça. Le maître d'Instagram dit ça.
Je vous dis ça. Parce que le nombre de trucs qui disent, moi, je veux faire tel endroit, je veux faire tel endroit, je veux faire tel endroit, dès que tu leur donnes les tarifs et puis après, ils se...
Ils disparaissent.
C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Soit c'est sponsorisé, tu le fais toi-même, mais tu le fais, tu l'as épargné, tu es épargné pour ça. C'est une expérience. Imagine, par exemple, tu vas faire une nuitée à la Baie des Sirènes.
C'est pas pour tout le monde, ça.
C'est pas pour tout le monde. Mais à la Baie des Sirènes, tu fais un week-end et tu as peut-être trois vêtements, puisque tu as changé. Mmh. Et tu fais peut-être 4 contenus que tu publies de façon différée.
Ah, donc les influenceurs.
Que la personne y va tout le temps. Les secrets de mes amis influenceurs.
Ah non, mais bon.
Mais c'est la vérité.
Mais c'est la vérité. Nous tous, on fait ça.
Il faut qu'ils protègent le peuple.
Et donc,
parce que les gens croient qu'eux, ils sont là-bas tout le temps.
Ils sont là, non. Alors que derrière, on n'est pas là-bas tout le temps. Et les gens se disent, ah bon, ça, c'est accepté. C'est pas pour toi. Peut-être, moi, tu sais pas, c'est pas pour toi. Ça sert à rien d'y aller. Franchement. Et les gens vivent beaucoup par procuration sur les réseaux sociaux.
Ça dit quoi?
Ben, décidément, je fais juste la journée.
Ah non.
Et puis tu circules,
moi,
tu vas
ailleurs. Moi, mon petit secret que je vais partager, je vais au Katoum.
Ah, c'est oui, super voilà, Katoum.
Le Katoum, il coûte 40 000. Et ils sont partenaires à la baie, donc tu peux aller passer la journée là-bas. C'est tout.
Et pour aller à San Pedro, qui est incroyable au demeurant.
Incroyable, voilà.
Pas parmi les plus belles plages que j'ai vues, vraiment.
Ouais. Ça, il n'y a pas de.
Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans des endroits très Instagrammables qui coûtent trop cher pour ce qu'ils offrent, alors que tu as une alternative moins chère. Et ça, je pense que c'est aussi. La plupart des gens qui viennent s'installer ici, ils ont forcément des gens qu'ils connaissent.
Oui.
Et l'erreur qu'ils commettent, ils veulent vivre comme les gens qu'ils connaissent dans le pays. Tu vois, par exemple, tu as un ami, c'est le fils d'eux à Abidjan.
Ah.
Si tu commences à vivre comme lui, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut que toi-même, tu te crées ton propre réseau.
Amen.
En fonction de ta poche, qui partage les mêmes
capacités
financières. Parce qu'on est pas, on se promène ensemble, mais on n'est pas pareil. Hein. Les moutons marchent ensemble, on n'a pas le même prix.
C'est ça,
on n'a pas le même prix.
On n'a pas le même prix.
Voilà.
Exactement.
Franchement, il faudrait que les gens dépassent aussi ça.
Mais c'est important d'en parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, comme il a dit, il faut un entourage où tu puisses en parler aussi.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'en parlent jamais de l'argent. On dirait que leur argent est infini.
C'est très français.
Ouais,
c'est très franc. On a peur de parler au fait de l'argent. Quand on te dit, ah, ça coûte tel prix, si c'est cher, dis que c'est cher.
Ouais.
Faut pas avoir honte de dire que c'est cher.
Non, et tu demandes à ton entourage. C'est pour ça aussi, on n'en a pas parlé, se faire des amis.
Ouais.
Parce que quand tu t'installes, il y a aussi cette crainte. C'est comment est-ce que tu crées ton cercle, finalement, ton cercle proche, si tu vis en plus en solo. Et il faut absolument rapidement créer un cercle de confiance qui te permet de dire si tu recherches un bon plan. J'ai envie d'aller à Sydney, mais je recherche un bon plan.
Est-ce que
tu peux m'aider, tu vois. Mais le bon plan, ça veut dire que tu cherches un truc, un bon rapport qualité-prix. Il faut demander. Il y en a.
C'est
mais
clair.
Il faut avoir le bon entourage.
Oui, et puis donc c'est pour ça que...
Moi j'ai un tips. Bon, ça, c'est un tips que je donne aussi à mes clients et amis qui viennent.
On vous met bien, hein, Prince, vraiment, ils vous aiment bien. Là.
Quand ils arrivent, ils veulent s'installer, ils me disent, mais il faut quand même me faire des contacts. Je dis franchement, ça sert à rien d'aller dans les hôtels et les restaurants. Va à l'église.
Très bon point.
Va à l'église. C'est-à-dire, je vais citer quand même le nom. Tu vas à Vase d'honneur.
Vase d'honneur, oui.
À la fin de culte, on te dit on accueille les nouveaux. Mais dans les nouveaux, après, on te met dans une tribu. Les gens de l'église sont un peu mesurés dans leurs dépenses parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Je ne dis pas qu'on n'a pas la crainte de Dieu, mais je le dis. Ils sont un peu plus en mesure dans leurs dépenses.
En tout cas, ils essayent.
Ils essayent. Donc, c'est eux qui vont te dire on va ici, on va là, on va là. Donc, ils vont te donner déjà la petite mesure d'Abidjan avant de découvrir maintenant ton autre cercle d'amis. Mais commence toujours dans les cercles des gens qui vont à l'église. Ça va te permettre de ne pas trop dépenser. Et c'est les mêmes qui vont te dire, ici, ce n'est pas trop cher. Ils sont francs, en fait, dans leurs paroles, dans les recos qu'ils vous donnent. C'est, voilà. C'est ce que je dis à mes clients. Allez-y, d'abord à Vase d'honneur, vous allez trouver un petit siècle. Et après, maintenant, revenez dans le monde et nous autres.
Exactement. Non, et puis, c'est une des choses dont on mettra dans le programme, effectivement, c'est quels sont les groupes selon le centre d'intérêt. C'est-à-dire que c'est pareil, sur la salle de sport à laquelle tu vas, il y a un public différent. Selon les endroits où tu joues, moi, par exemple, je joue au basket. J'ai joué au basket dans peut-être 5 ou 6 équipes différentes à Abidjan. Chaque équipe a des lieux complètement différents où ils vont. Mais par exemple, je sais que ça, c'est un truc, quand je suis arrivé, direct, j'ai dit, ok, je joue au basket, qui peut me donner des endroits? Et on te dira, tiens, il joue là, il joue là. Tu vas jouer à l'université, ça n'a rien à voir avec quand tu vas jouer à Equinox, qui n'a rien à voir avec quand tu vas jouer en zone 4, ça n'a rien à voir avec quand tu vas jouer à l'Agora de Kumasi. Rien à voir. Et à chaque fois, c'est des gens complètement différents, mais c'est la même activité. J'ai juste fait du basket, j'ai pas changé. Donc tout ça, on en parlera après.
Il y en a qui pensent que c'est difficile de se faire des vrais amis en Côte d'Ivoire. Non.
Je pense que c'est la chose la plus facile. L'Ivoirien est naturellement ouvert et attiré par l'étranger.
Là, on ne parle pas de connaissances.
Tu dis ?
D'amis.
Oui, je ne parle pas de connaissances.
Non, mais je pense que la vraie amitié ne naît pas du jour au lendemain.
Non,
ça
c'est sûr.
Ça prend du temps. Et je pense que un truc, tu ne viens pas d'un pays pour te faire des amis. Tu viens de faire tes contacts.
Oui, mais faciliter tu veux avoir, tu veux avoir ton cercle.
Oui, mais le cercle, je dis, ce n'est pas le premier venu à qui tu as expliqué tes problèmes de couple ou même tes problèmes de vie. Ça prend du temps. Je pense que ton premier sexe, c'est d'abord t'intégrer, avoir une vie sociale. Mettons, après avoir une vie intime avec des personnes, c'est, ça, à toi de sélectionner en fonction des valeurs des gens autour de toi, tu pourras te faire des amis. Mais pour se faire vraiment des contacts, des gens avec qui prendre un verre, discuter business, il y a des endroits appropriés.
Mais tu sais, c'est intéressant que tu dis sur se faire des amis, ce que tu dis, Prince, que je vois que c'est juste le moment aussi pour moi de tirer sur tous ceux qui confondent la vie nomade avec changer de pays. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir la vie d'Instagram, la vie du nomade, là, celui qui dit je suis dans un pays différent tous les ans.
Un an en Côte d'Ivoire.
Un an là, un an ci, et espère avoir des amis.
Non.
En fait, il faut concevoir un truc qui est quand même vrai. Il y a des choses qui, dans tous les cas, doivent se faire dans la longueur. Typiquement, les relations de qualité, c'est difficile de se dire que tu vas les avoir en moins de 3 mois. Enfin, limite, c'est inquiétant. Si en 3 mois, tu comptes sur quelqu'un pour venir te sauver quand tu es malade ou à qui tu racontes tes problèmes intimes,
il y a un souci.
Pose-toi des questions.
Il faut consulter.
Il faut consulter. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que quand les gens s'installent, il faut aussi que, c'est ce que moi, en tout cas, je vais pousser vraiment pour que les gens se rendent compte, c'est il faut avoir un horizon. Il faut avoir un horizon. Il faut que chaque chose, tu puisses lui donner son temps. Il ne faut pas espérer que... en fait, par exemple, les gens qui... Après, ça demandera des efforts aussi. C'est-à-dire que typiquement, c'est comme les gens... Bon, on en parlera dans le programme « Comment se faire des amis ». Peut-être on mettra un petit... Bon, « Comment se faire des amis », ça va être marrant. Mais moi, ce qui me tue, c'est les gens qui me disent... Bon, là, je parle vraiment des gens qui cherchent des relations, qui vont me dire « Je cherche à me mettre en couple ». Mais quand je leur demande « Tu sors combien de fois par semaine ?» Ils me disent « Ah, moi, une fois par semaine. »
Tu as fait la transition parfaite pour la dernière partie.
Qui est ?
Justement, pour les célibataires à Abidjan.
Ça, c'est...
Parce que tu sais que c'est le problème numéro un.
C'est un service que je propose aussi.
Bravo ! Il a un service de dating. Tu as vu, nous, on n'est pas allés là-bas. Hein. Ça, on te laisse ça. Franchement.
Non, mais bon, je pense que...
Là, il faut parler. Parce que les gens ont dit qu'apparemment, le marché est difficile pour les gens.
Abidjan est technique. T'as entendu là-bas, j'ai entendu assez dû.
J'ai entendu assez dû.
Moi, le retour que j'ai, c'est beaucoup de les femmes qui me disent beaucoup ça.
Oui, forcément.
C'est difficile de trouver un petit ami en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens, soit ils ne savent pas draguer ou ils n'ont pas de la conversation.
Qu'est-ce que tu réponds?
Les personnes qui m'ont dit ça, j'ai simplement dit, mais peut-être tu n'es pas le genre de ton genre. Peut-être tu cherches un gars qui a beaucoup de conversations. Est-ce que toi-même, déjà, tu as beaucoup de conversations?
Exactement. J'adore.
Il défend la Côte d'Ivoire.
Non, pas que je défends la Côte d'Ivoire, mais
parce que ailleurs c'est valable.
Non, mais c'est valable toute chose.
Tu vois, ce que tu reproches aux hommes ivoiriens, est-ce que toi-même tu penses que tu as ces compétences, ces qualités-là? Que non, ils ne savent pas inviter, ou bien je connais une dame, une jeune dame, voilà, elle n'est pas mariée, qui travaille dans une grande institution, qui a la quarantaine, qui tombe malheureusement sur des genoux.
Ah.
Mais je me dis, mais tu vas tout en Bloom, tu veux tomber sur qui?
Effectivement. Au Bloom, c'est...
Tu m'étonnes.
On n'est pas là pour fonder des familles.
Bon, hein. Le jour, on fera... Voilà quoi.
Mais
c'est ça en fait.
Non,
il faut être comme tu dis. C'est au Bloom, tu fais tes rencontres et puis tu veux qu'il y ait une conversation sur la guerre en Ukraine. Mais c'est pas là-bas.
Mais attends, non, le jour que l'UNICEF ou le CHF aura une conférence, tu t'assois dans la salle, forcément tu vas trouver ton genre. Voilà, là-bas. Mais tu vas à l'université, je sais pas, mais je pense que.
Encore une fois, c'est comme partout. Ne
vous inquiétez pas.
Encore une fois, c'est comme partout.
C'est comme partout. C'est comme partout. Abidjan, c'est comme partout.
Mais d'ailleurs, donc, on a prévu ça, les activités en solo. On a une partie spéciale où on vous dira les activités à faire, où on fait des gens d'un certain type.
C'est comme, tu vois, j'ai des dans amis maliens et guinéens qui sont là. Ils me disent, mais Franck, on est là, tu nous gênes mal. Il n'y a même pas une petite chérie pour nous. Mais je dis, aujourd'hui, si tu veux pêcher en Côte d'Ivoire, pendant la CAN, va au Noum.
Simple.
Il n'y a rien à dire. Va au Noum Hôtel pour regarder un match.
Si oui, mais tu dis ça avec. C'est pas, eux, ils ne savent pas. C'est toi qui as l'info.
Mais c'est la liste. C'est pas écrit. C'est pas écrit, mais tu vois, c'est une observation. Tu te dis, c'est là-bas, il y a beaucoup de Benguis. Tous les jeunes, wesh, tout le monde. Tout le monde va se faire voir, au fait, dans un endroit bien spécifique. Et donc, si tu veux, pendant la période, faire des rencontres, tu vas dans l'endroit qui attire le maximum de personnes.
Non, bon. Maintenant, il faut qu'on recule et qu'on t'amène sur le sujet qui pose problème. On va dire aux gens qui sont en famille, qui sont un peu plus des gens sérieux. Non, parce que bon, les célibataires, là, vraiment, tiens, le combat est dur.
C'est dur.
Partout. Maintenant, la question qui, moi, m'intrigue un peu, c'est comment tu réponds aux gens qui se disent que les mœurs en Côte d'Ivoire sont complètement dépravées, que l'infidélité est galvaudée.
C'est la même voix que c'est dur, hein.
Donc, Prince, l'infidélité et les mœurs en Côte d'Ivoire, Prince.
Je pense que c'est...
Prince, attends, c'est un moment important, calmez-vous.
C'est un moment
solennel. C'est un moment solennel.
On va défendre les hommes et femmes. Les hommes, parce que les femmes...
Non, apparemment, surtout les femmes aussi, Ivoiriennes. Non, je suis désolé. C'est ce que les gens vous reprochent. Ouais, c'était que les
il
hommes.
Il a fait une tête, j'ai cru qu'il allait dire « je parlerai qu'en présence de mon avocat ».
Donc, s'il vous plaît, veuillez écouter la défense de Prince, s'il vous plaît. Au lieu de dire « c'est vrai là-bas », écoutez Prince, s'il vous plaît. Écoutez-le.
Et sortent les caméras.
Ça dépend. Tu vois, cet avis-là, c'est beaucoup les femmes du Sahel qui me disent.
Moi,
ce que j'ai... Oui, franchement, il faut comprendre un peu d'où elles viennent par rapport à leurs hommes. C'est beaucoup les femmes du Sahel qui disent qu'en Côte d'Ivoire, les hommes ici, là, ils vont me draguer. Demain, ils vont draguer notre fille et tout facilement. Pourquoi? Parce qu'elles sont habituées à un type de dating, une manière d'être courtisée. L'Ivoirien, il te dit cash. Homme comme femme.
Ah oui.
Faudrait, on est dans une société aujourd'hui qui est, je n'ai pas dit émancipée, le féminisme a pris le dessus, les hommes aussi sont deviennent un peu plus macho. Bon, voilà quoi. Chacun cherche son intérêt. Et donc, si toi ton intérêt c'est pour un but bien précis, les Ivoiriens vont te dire directement. Moi, il y a plein de femmes qui abordent des hommes ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est devenu mon écho.
Ça, c'est vrai. Ça,
elles sont cash.
Ça, c'est clair.
Parce que elles savent ce qu'elles veulent. Les mœurs sont dépravées, mais j'ai pas dit on a plus de temps, mais l'horloge
tourne.
Mais franchement, tu vois, il faut être audacieux. La vie appartient aux audacieux. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse, je pense que les Ivoiriens, c'est ça en fait le truc. Ouais. On est direct dans notre approche de drague, que ce soit des hommes ou femmes. Ensuite,
Infidélité.
L'infidélité.
Prince, faut... Non,
est-ce
là,
que,
c'est...
Est-ce que les hommes ivoiriens sont infidèles ou les femmes ivoiriennes sont infidèles?
Ils sont plus infidèles que les autres. C'est ça, c'est ce que les gens leur reprochent. Parce que...
On agit avec toute transparence, c'est tout ce que je peux dire.
Oui, c'est que c'est plus honnête.
C'est plus honnête. Nous, les Ivoiriens sont plus transparents sur l'infidélité que les Maliens ou les Sénégalais ou autres. C'est tout. On est... À la diaspora? Mais non, les Français sont mal placés pour nous dire qu'on est dépravés ici en Côte d'Ivoire. Mais les fidélités, oui. Je pense que c'est plus accepté en Europe d'avoir une relation libre qu'être infidèle ici. Moi, je préfère encore qu'on soit infidèle que d'avoir une relation libre.
Ah, ça dépend de comment tu... Attends, prends le micro là, tu viens de parler.
Mais le micro...
Oula!
Silence dans la salle, silence dans la salle.
Hé, mesdames, s'il vous plaît. Concentrez-vous. C'est bizarre, il n'y a pas de garçon qui s'est excité là. Oula! Mesdames, s'il vous plaît. Allons, on respire. On t'écoute. Vas-y, Eric.
Non, c'est intéressant de comprendre si factuellement on n'admet pas que ici c'est beaucoup plus ouvert. Quand tu parles avec n'importe quelle femme, les femmes du Sahel, toutes les femmes, bon, ça, la majorité des femmes disent les hommes sont comme ça. Quand tu regardes la statistique, et ça, c'est en Côte d'Ivoire que les femmes disent ça. ah, les hommes sont comme ça, ils vont coucher avec n'importe quelle femme.
Mm-hmm. Ils le disent pas.
Oui, mais le fait qu'ils le disent pas,
ça
veut pas dire qu'elles savent pas.
Bon, si vous vous dites qu'il y a autant là-bas, moi c'est très simple. C'est, on peut parler avec 100 hommes qui ont 30 ans, 20 ans, 40 ans là-bas. On dit, tu avais combien de partenaires différents? Mm-hmm. Et puis tu demandes ici. Mm-hmm. C'est factuel, il n'y a pas de.
Genre, c'est beaucoup plus ici.
Mais, ok.
Soyons honnêtes.
Voilà. Ok, je suis d'accord.
Il y a la pudeur du corps.
Et où ça? Tu viens d'où?
Tu viens de quelle pudeur du corps?
Tu viens de quel pays? Non, tu viens de quel pays?
Il faut vous calmer.
Bon, on se calme. Attends, tu viens de quel pays? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Non, tu viens de la France. Sud-ouest de la France, sud-ouest, c'est quel...
C'est Bordeaux.
Bordeaux. Oh.
Les gens de la light. Mmh.
Toulouse-Bordeaux, ok, ok. Mmh.
Non, Toulouse, c'est plus sud-est. Non, mais hey. Si c'est ça, on va arrêter de parler de ça.
Contre,
vous ne savez pas vous retenir.
Moi, par exemple, la première fois que je suis arrivé en France, j'ai tout compris. Quand j'ai fait 2 semaines, j'ai dit, moi, je ne peux pas vivre en France. Mmh. Pourquoi? Parce que la facilité à avoir du sexe, le fait que vous rencontrez des gens, vous ne connaissez même pas leur nom, vous ne vous rappelez même pas. C'est tellement facile et accessible à partir de ton smartphone ou dans la rue. Moi, ça m'a choqué. Je me dis, moi, je vis ici encore.
Tu penses qu'ici, on va me perdre. Tu penses qu'ici, c'est plus dur?
Ici, c'est plus dur. Ici, par exemple, déjà, les sites de rencontre ou les applications de rencontre, c'est pas aussi
vulgarisé. Non, mais là, c'est vraiment une question de perception. Parce qu'il va te dire...
Différent, tu vois, c'est un peu ça. Maintenant, le fait qu'ici, on soit plus ouvert par rapport à la fidélité ou tout ce qui est adultère et tout, ça vient du fait qu'on n'a pas une pression religieuse et sociale ou culturelle comme les autres pays.
C'est vrai.
Tu vois, par exemple, au Mali, on ne parle pas vraiment d'adultère. On ne parle pas d'infidélité. Tu vois,
pourtant, ça arrive fort.
Pourtant, ça arrive fort. Moi, à midi, c'est au Mali, j'ai appris les bureaux de midi.
Oui, les bureaux de midi.
Tu vois, à l'ACI 2000, là, le gars, il te loue un appartement.
Il loue un appartement pour voir sa maîtresse.
Sa maîtresse, à midi, il se donne rendez-vous à midi.
À la pause déjeuner.
À la pause déjeuner. Mais ici, bon, il n'a pas besoin de louer.
C'est pas cher.
C'est pas cher, tu vois.
C'est pas cher là-bas, c'est un pays pas cher.
Tu vois.
C'est juste que là-bas, ça ne se soit. Alors, la question, c'est du coup, ce qui est intéressant. Donc, toi, tu penses. Alors, c'est la même conviction que moi, j'ai, pour info. Pour avoir grandi un peu, donc au Mali forcément, qui est vraiment l'opposé diamétral sur ce point-là où les gens nous comparent souvent, j'aime bien dire aux gens, c'est juste que là-bas, ça, les gens n'en parleront pas.
Oui.
Et vraiment, dans les deux sens, c'est-à-dire que je ne connais aucun homme malien qui dit avoir été trompé. Pourtant, j'en connais qui auraient été trompés. Non. Je connais aucun homme ivoirien qui a été trompé qui ne le dit pas.
Ah oui.
Ils le disent.
Ils le disent.
Et après, ils te disent « vengeance ». Donc, en fait... Si tu veux, ça devient un autre écosystème.
C'est un autre système.
Donc la question que les gens se posent maintenant, pour aller jusqu'au bout, parce que je pose pas la question juste comme ça, c'est ceux qui se posent la question après de la transmission de ces mœurs à leurs enfants. C'est là que se pose la question. Parce qu'en fait, si tu veux, à la limite que chacun se démerde avec son kiki, ça, on peut le dire. Mais maintenant, est-ce que... Parce que je sais que moi, par exemple, un truc qui m'avait marqué, c'est des gens qui sont venus, que je connais, qui sont venus en Côte d'Ivoire, m'ont dit qu'ils trouvaient que beaucoup de femmes ont eu des enfants très jeunes. Et que ça les inquiétait. Moi, je leur ai dit, bon, après, c'est les systèmes, en tout cas, les familles s'occupent aussi des enfants, autant que l'enfant jeune, autant que la fille. Donc maintenant, est-ce que toi, de ton expérience, c'est quelque chose qui crée une société où les gens ont moins de considération ou plus, se font plus de mal autour de ça? C'est ça la question. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas assez longtemps en Côte d'Ivoire pour pouvoir parler de ça. Donc j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus, concrètement. Qu'est-ce que toi, tu penses que ça a créé par rapport aux autres pays où tu as vu en termes de dynamique familiale?
C'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de mères célibataires en Côte d'Ivoire ou de pères célibataires avec leur enfant, ça casse au fait la famille traditionnelle.
Oui.
Tu vois? Et c'est intéressant parce que le concubinage, nous en Côte d'Ivoire, on le banalise, tout le monde est en concubinage.
Oui.
Tu dates une personne, vous faites, on appelle ça le diplôme. Tu étudies la fille pendant 7 ans, 10 ans, vous êtes ensemble sans être marié et vous faites des enfants. Ici, ça passe crème. Mais dans certains pays, c'est inconcevable.
Inimaginable. Un petit peu compliqué, au Mali, les filles n'emménagent pas si elles ne sont pas mariées.
Elles ne sont pas mariées. Tu ne quittes pas la maison de tes parents tant qu'elles n'étaient pas mariées. Mais ici, je ne sais pas, c'est parce qu'on est trop exposé à l'Occident. Dès que tu commences à travailler, ton premier salaire, tu peux prendre ton appartement, fille comme garçon.
Est-ce que ce n'est pas parce que c'est culturel?
Oui, bien sûr.
Tu ouais, pas, c'est...
En fait, c'est ça, c'est culturel, en fait.
C'est décomplexé, c'est culturel, en fait.
Mais je pense que c'est beaucoup religieux. Il y a cette impact religieux, cette pression...
Qui n'est pas là.
Qui n'est pas ici. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Il n'y a pas du tout... Peut-être que ça existe pour des familles très conservatrices.
Oui, mais
oui,
c'est
ça existe.
On ressent vraiment moins cette pression-là pour des femmes... Je pense qu'aujourd'hui, ici même, moi, j'ai des amis, elles ont peut-être 30 ans.
Ouais.
Leur mère leur dit, ah, ma fille fait un enfant.
Oui.
Ça dit, les priorités ont changé. Il ne faut plus te marier.
Oui,
mais fais un enfant.
Mais c'est normal. Mmh. Ça,
alors qu'au Sénégal, j'ai les mêmes amis de 40 ans.
Il faut chercher à te marier.
Mmh. Ah, c'est ça qu'on leur dira comme instruction.
On va leur dire, cherche à te marier d'abord, forcément. Donc, les sociétés ont une compréhension différente. Parce qu'une mère, en Côte d'Ivoire ici, fait ton enfant, les parents sont occupés.
Mais,
oui, c'est la différence.
Donc, on s'en fout de qui est le père ou qui est la mère.
Oui,
c'est juste l'enfant.
Ils s'en occupent ici.
Ils s'en occupent. Oui, bon, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais dans d'autres pays,
pour,
c'est pas pareil.
Pour tu juste, peux pas nous envoyer si elle l'a enfants, pas dit dans le micro, elle disait parce qu'on a des sociétés matriarcales.
Oui, parce que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, ça peut aussi jouer. Mais ouais. Que, du coup, dans les dynamiques familiales, ça crée des dynamiques familiales que tu trouves ne pas être différentes. Toi qui as vu les différents pays plus longtemps, tu trouves qu'ici, ça n'a pas créé des situations où les familles ont plus de mal entre générations ou entre des parents où en fait tout le monde est des enfants séparément avant de se mettre ensemble.
Le premier problème, c'est le problème de la langue. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'arrive plus à transmettre les langues locales aux enfants.
Ah, c'est sacré.
Ça c'est moi pas qui suis dans le tourisme culturel, je ressens ça parce qu'on fait des cours de langue à des personnes.
D'accord.
Et tu vois que la nouvelle génération, pas forcément issue de parents séparés ou bien de pères et de mères individuels, n'arrive plus à parler leur langue.
Simplement.
Une personne qui n'arrive pas à parler sa langue maternelle, c'est une personne un peu perdue, qui est en manque d'identité et qui est en recherche constante de qui il est. Et ça, c'est un problème
mais
aussi.
Est-ce qu'on n'est pas dans un truc où, tout à l'heure, on a parlé de tous les avantages liés à la modernité, finalement.
À l'accueil.
La modernisation, en fait, du pays. Tu vois, on a vu tous les avantages, le fait que, voilà, il y a moins d'embouteillages parce que le gouvernement travaille, etc., etc. Et là, en fait, on est en train de parler de choses qui peut-être nous plaisent moins, désolent certains, ouais, etc. Mais c'est aussi lié à ça, en fait.
Oui, parce la que même tolérance qui fait.
Tu as parlé même d'exposition à l'Occident. Tu vois, ça fait plus de tolérance. Mmh. Effectivement, la même tolérance, tu vois, qu'on applaudissait tout à l'heure, s'applique, en fait, pratiquement à tout.
À tout, oui.
Et même à l'intérieur de la famille. Et là, tu dis malheureusement, alors que, tu vois, sur la conversation d'avant, tu disais... C'est bien,
c'est
tu vois.
Bien. Ouais.
Mais donc, ça montre que, voilà, c'est...
C'est l'impact du développement. C'est l'impact du développement, malheureusement. Aujourd'hui, moi, parfois, je compare, en fait, les pays africains. Côte d'Ivoire, Bénin, prenons les deux. Mais Côte d'Ivoire, Mali.
Oui, bon.
Quand c'est très récent...
Les Maliens, c'est quand j'envoie de tirer à balles réelles.
Côte d'Ivoire, Bénin.
Fais Bénin, c'est cool.
Je dis souvent que... moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent en Côte d'Ivoire et qui disent que j'ai rien retenu de la Côte d'Ivoire, à part la fête.
Ah.
Oui, la majorité. Ah, on mange bien, on fait la fête en Côte d'Ivoire.
Et le paya.
C'est tout ce qu'on retient en fait de la Côte d'Ivoire. Moi, quand j'entends ça, je trouve ça tellement dommage. Alors que quand tu vas au Bénin, ils sont capables de citer 5 villes avec tout ce qu'il y a comme attrait culturel, festival et tout,
oui,
du Bénin.
Oui, mais bon, après, c'est produit d'appel. Quand tu vas au Bénin, non, tu ne vas pas pour...
la fête.
Oui, mais c'est ce qu'on met en avant. En fait. C'est ce que le pays décide, ou les autorités, ou
et
la
même
population.
Que même
les
la en population, mais également.
C'est la population. Voilà, même pareil comme il y a quelques années au Sénégal. Oui. Je trouve que c'est plus, aujourd'hui, c'est même plus occidentalisé. Mmh. Et parce que la Côte d'Ivoire n'a pas une identité culturelle encore promue. Je ne dirais pas forte, parce qu'elle est forte, mais
elle n'est pas promue.
Elle n'est pas promue. Mmh.
C'est pas ce qu'on met en avant.
C'est pas ce qu'on met en avant.
Parce qu'en tout cas, c'est le tourisme d'affaires qui est mis en avant. Et le tourisme d'affaires ne se nourrit pas d'identité culturelle.
D'identité culturelle. Mais tu vois, quand tu veux faire un nation branding, tu es obligé de mettre des points, des facteurs, des identités, en fait, à ton pays. Mmh.
Et est-ce que tu peux nous dire si, justement, je ne sais pas si grâce à la CAN ou même avant, vous êtes en discussion avec les autorités sur ces questions-là de nation branding?
Ah oui, je pense qu'on en a discuté même bien
est-ce
avant la CAN.
Ça avance aussi
et ça avance très bien. Tous ceux qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture ont
pu
constater que la vision d'ensemble de la cérémonie, c'était la promotion des masques et danses culturelles. C'est-à-dire, au-delà de l'aspect modernité que la CAN a, on s'est dit,
on va marquer le coup et promouvoir la Côte d'Ivoire autrement. Vendre la destination avec toutes les danses et tous les masques. Et ce qui est très drôle, c'est que les mêmes Ivoiriens ne connaissaient même pas même les le masques. Nom de ces masques, l'importance de ces masques.
Oui, c'est là où tout. Tu dis c'est dommage.
Et c'est dommage, tu vois. Et mais je pense que c'est dans la vision du ministère de la Culture et du ministère du Tourisme de revenir en fait à ces bases-là.
Il faut trouver le parfait mix entre héritage et modernité.
Il y a certains pays qui le réussissent, comme je disais, le Bénin, qui le réussit très bien. Et la Côte d'Ivoire, on est un peu en retard sur la partie culture. C'est pas ce qu'on met en avant. Alors que.
Même auprès des Ivoiriens, même.
Même auprès des Ivoiriens.
Mais c'est vrai qu'il y a très peu de musées. Un truc que moi j'ai souvent en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas énormément. Ils en font plus maintenant, mais c'est pas la ville. Tu vois, autant souvent les gens comparent Paris à Abidjan, mais c'est le truc qui les sépare. Les activités culturelles. On a plein de concerts. Ça, par contre, ça, si t'aimes les concerts et la musique, on est servi à gogo ici.
C'est le show, quoi.
C'est le show, toujours. Mais dès qu'on rentre dans la culture, dans l'ouverture à de nouvelles conceptions du monde, ou au contraire, à d'anciennes conceptions du monde, tu as un peu plus de... Il y a plus d'efforts à faire.
Il y a plus d'efforts à faire. Comme tu dis. Et encore, dans les efforts, c'est, je trouve encore que c'est mal fait. Mm-hmm. Je prends un exemple, l'Abissa.
Je pensais à ça. Ouais.
Tu vois, l'Abissa. Le Bassam.
C'est quoi l'Abissa ? Faut expliquer
c'est,
aux gens.
En fait, c'est un... C'est une période de l'année où les grandes familles Nzima, donc le peuple qui habite à Bassam, se réunit pour, en réalité, c'est un peu comme la Pâquinou, on se réunit pour parler de tout ce qu'il y a eu pendant l'année, régler les soucis, parler des funérailles.
Costumes.
Voilà. Et donc, c'est vraiment un festival de danse. Il y a plusieurs jours. Et ça, c'est vraiment l'essence de l'Abissa. Aujourd'hui, tu as des marques de communication qui sont sponsors de l'Abissa, qui te font des concerts, qui te brandent un peu partout. Et donc, il y a énormément, ça devient le festival culturel ethnique en Côte d'Ivoire par excellence, qui reçoit des personnes de partout dans le monde, qui viennent. Mais tu te demandes, c'est quoi l'Abissa ? Ils ne sauront pas te dire. Ils te diront, c'est une fête, Nzima. Mais ils ne sauront pas te dire, voici ce qu'on fait, voici pourquoi on le fait, la signification de la danse, et pourquoi c'est à telle période de l'année. Donc, on fait la promotion, mais on le fait de telle sorte que ça devient un produit trop...
Lisse.
Alors qu'il doit être très brut. Tu vois, l'année passée, le festival de Vaudou était, pour ma part, l'un des meilleurs. Mais cette année, il est devenu trop moderne. Parce qu'il y a eu des concerts de Yemi Eladé au festival du Vaudou, concert de Koffi Olomidé.
Tu parles de celui à
Cotonou. Vaudou Blaze, à Cotonou.
Ouais, ouais.
Tu vois, donc il y a un effort de moderniser, des sacres, bon, démystifier le festival du Vaudou. Mais en même temps, faisant cet effort, on est en train de.
Casser un peu.
Casser le côté traditionnel,
ça,
authentique
ça,
de la chose.
C'est donc, ça le.
La, donc il faut trouver le juste milieu.
La modernisation, c'est ça.
Et c'est
tu
c'est
veux
le
attirer,
challenge.
Et puis voilà, t'appelles Kofi.
Tu appelles Kofi.
Mais tu racontes plus l'histoire.
Tu racontes plus l'histoire, en fait, en réalité. Tu perds l'essence. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà assisté au Festival du désert au Mali, à Ségou, là.
Ah, ok, oui, je vois très bien. Le festival sur le fleuve, là.
Sur le fleuve. Bon,
Oui, très bien.
En fait, voilà, le festival de Ségou.
Ouais. Et, je sais plus c'est quoi son nom. Ségou Art.
Non, il y a le Ségou Art.
Mais il y a l'autre.
Mais il y a le festival
du Niger.
Niger
aussi. C'est ça.
Le festival du Niger.
Festival du Niger.
Moi, j'ai assisté une année, mais.
Non, c'était bien ça.
C'est incroyable. Tu vois, en termes de musique, en termes de danse, en termes de vêtements, tu restes dans la pure tradition. Mais c'est arti plus de monde même que l'Abissa ou des festivals qui sont très modernes et tout. Et moi, je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Rester authentique et vendre cette authenticité-là.
On va partout, ouais.
Mais tu sais, c'est cool de se dire qu'on recherche l'authenticité. Mais dans les faits, tu as toute une jeunesse qui, en fait, le week-end, entre aller
voir
le village
et même
de
encore,
maman
on cherche
et
le modernisme. Mais moi, j'ai entendu tellement de choses. Sur Facebook, le gars me dit, mais... Alors, je ne vais pas aller à la Bissa ou au carnaval parce qu'il y a trop de sorcellerie là-bas. Mais je dis, mettons, tu fêtes Halloween.
Oui, Halloween, c'est une fête des revenants. Hein.
Voilà, donc je dis, une fête de génération chez les Hébriers, entre ça et puis fêter Halloween, on ne voit pas trop la différence.
Oula.
Très bon
donc,
point. C'est vrai qu'Halloween, c'est la fête des morts.
C'est la fête des morts.
Et après, c'est pompé de chez les Latinos, ouais. Voilà. Effectivement, là-bas.
Et donc, c'est à nous de revaloriser un peu ça. Et... Il faut vendre ça. Les touristes, c'est ce que j'aime beaucoup. Les touristes, ils sont plus aptes à acheter, à consommer l'authenticité ivoirienne que même nous-mêmes, les locaux.
Ah, c'est ça qui est dommage. Ouais. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de changer. Ben, écoute, très bien. Je pense que là, on a fait un bon petit tour.
Là, ça...
Alors, je ne sais pas si tu es au courant de la tradition prince, mais normalement, quand on finit un épisode de podcast, l'hôte choisit un mot qui résume la discussion. et les gens essaieront de faire un commentaire avec ce mot.
Pour nous prouver qu'ils ont été jusqu'à la fin de l'épisode.
Donc, ceux qui étaient jusqu'à la fin ont cette petite occasion de pouvoir partager leur ressenti en utilisant un mot de ton choix.
D'accord.
Quel mot tu choisirais pour cette discussion ?
Authenticité.
Oh.
Ouais, okay. Ça résume bien.
Authenticité. Ouais, ouais, c'est ça. Super. C'est ça qu'on a fini. Hein. Donc, authenticité, essaie de nous faire un commentaire avec ça. Ton épisode, c'est vrai que quand il sortira là, maintenant, ce sera probablement la dernière semaine pour prendre le programme dont on a parlé, s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que là, à ce moment-là, on mettra un autre code. Qu'il faut qu'on... Je pense qu'on mettra un code prince. Juste pour toi, quand même, pour que les gens qui te connaissent, qui ont fait l'effort de venir jusqu'à la fin, parce que s'ils ne sont pas arrivés à la fin, ils ne sauront jamais qu'il y avait un code, puissent en profiter.
Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Ça nous permet vraiment de voir. En plus, tu parles de ça avec passion, là. Je pense que les gens qui doutent, ils savent voilà. que...
Donc, voilà. Suivez-le partout, hein. Prince ouais. et Jah. Et puis, hein, si jamais vous êtes des debout, vous le contactez pour venir voilà. faire un peu de tourisme avec lui, pour mais ceux qui sont capables, pour les gens capables.
Il faut être très debout.
Non, on a des offres.
Il a des offres packagées.
On pourra nous faire une offre pour les gens du programme.
Ah, bien sûr.
Voilà, on va négocier ça.
On va vous négocier.
La Côte d'Ivoire, l'originalité, l'authenticité ivoirienne.
Voilà, on va négocier une offre avec Prince.
All right.
Ok.
Bah, écoutez, cas, merci beaucoup.
Merci à tous. Merci à ceux qui nous suivent en ligne.
Parce que ça fait longtemps.
Ciao.
Ciao.